Big shout to my man, shout to Zulu.
Don't touch me, just relax and let me be free. Whenever I call, come running 212 or 213. You know that I ball. Stop running, I'll call my substitute free.
I've got holes. I've got holes.
Shout out to my nigga Party Radimus. Shout out to Garnett Reed, Todd Dad, the whole universal sad. What up?
I've got 916-415-704. Shout out to the 206, everybody in the 808. Ha, ah, 216-702-414. 317-214s and the 281s. 334-205, I see y'all. 318 and the 601s. 203-804-402. 301-904-407-850-708-502. Hoes in different area codes. Know that. Southern hospitality.
CJMD 96.9, l'alternative radiophonique.
Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio.
50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Les Technopreneurs. Vous êtes à CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous sommes mardi le 13 décembre. Louis Seb à la barre des Technopreneurs, en compagnie de Jean-François Amalaco animation ce soir. Salut
bon,
Jeff.
Bonsoir.
Comment ça va? Quoi de neuf dans votre vie en direct des studios de Lévis ce soir? Quoi de neuf de ton côté, Jean-François?
Écoute, je ne m'entends pas du tout.
Tu t'entends pas du tout, mais moi je t'entends bien, c'est déjà ça. Ah non, ok, là, vas-y.
Ok, là,
et voilà, là, on s'entend. Tu t'entends-tu, toi?
Moi, non, mais c'est pas grave.
Non, mais t'es en direct,
Bon, c'est bon, sûr. Oui, ça va très bien.
Je t'entends dans mes écouteurs, donc ça veut dire que t'es là.
Bon, c'est ça. Mais en même temps, je suis dans la même pièce que toi.
Non, c'est correct. Non, ben, moi, les écouteurs ici, c'est comme le,
okay.
le son que les gens entendent.
Ah, bon. Alors, t'es un technicien.
Oh merde, je pense que j'ai raccroché par erreur.
Tu raccroches aux gens, toi, comme ça, là. Bon, ben, je vais continuer l'émission.
Ah non, je pense qu'il est encore là. Vas-y, donc, quoi de neuf?
Écoute, pas grand-chose, sinon que...
Ça roule en malade.
Ça roule beaucoup, pas mal.
Formation.
Et qu'il y a beaucoup de neige.
Ouais, ouais, l'hiver est arrivé.
Ouais.
Ben, pas officiellement.
C'est rendu que je suis bien intégré au Québec, hein, je chiale quand c'est l'hiver.
Ouais, ben, ouais. Tu chiales tout le temps, pas mal, non?
Ouais, mais particulièrement quand c'est l'hiver maintenant. C'est comme la couche.
Je chiale l'hiver en plus.
Je chiale tout le temps.
Non, je t'agace.
Non, le 22 juin, je chiale pas.
Non.
Les autres jours, oui.
Mais les autres saisons, tu chiales pas du temps. L'automne, t'aimes l'automne, t'aimes l'hiver.
Non, l'automne, ah, non, j'ai eu l'automne.
Okay. Parce que tu sais que l'hiver s'en vient.
Non, parce que j'ai eu l'automne.
Tout simplement.
Non, en fait, j'adore la neige, moi. Fait que j'aime bien ce temps-là. Là. Surtout, tu sais, comme aujourd'hui, puis hier, là, où il fait comme froid, mais sec. Là, honnêtement, moi, je trouve que c'est le temps parfait là, pour n'importe quelle situation. Là,
parce je préfère ça un peu moins froid, mais c'est correct. Quand,
wow.
quand il neige un peu. Moi, j'aime quand il neige. Quand il
y a ouais.
Donc, la semaine dernière, il y a eu un petit peu de neige le matin. Je m'étais levé, puis je crois, à 5 heures du matin pour aller aux toilettes. Puis j'ai vu dehors. Oh, peut-être que les écoles vont être fermées. Il va y avoir tempête, finalement. Non, mon cœur d'enfant était déçu.
Mais non. Et puis, quand c'est pas les écoles, c'est les brides d'Aqueduc.
Oui, mais c'est ça. L'école de ta fille, j'ai vu ça. Il y a une autre école à Lévis aujourd'hui.
Exactement.
Donc, à voir s'il y aura une autre école demain ou le reste de la semaine. C'est plutôt étrange, les brides d'Aqueduc.
C'est pas étrange, hein.
Non.
Ça arrive dans des pays sous-développés. Fait que ça arrive ici aussi.
Ouais, on n'est pas sous-développés quand même. Sinon, mon côté, ben, j'ai une belle nouvelle à annoncer à nos auditeurs. Après les fêtes, on va changer de case horaire, mais en fait, on va rester le mardi, mais on va descendre à 20h au lieu de 21h. L'émission de Valier Rencontre va passer au samedi à 14h. Donc, un petit déplacement pour Valier. Et puis, ben nous, on profite de l'occasion pour aller à 20h. Une heure plus tôt, c'est apprécié. Parce que c'est pas toujours évident de faire de la radio à 21h. Donc, je suis bien content de ce changement-là. Et je profite de l'occasion pour aussi vous annoncer nos congés des fêtes. Le 27 décembre et le 3 janvier, il n'y aura pas d'émission. Donc, la semaine prochaine, nous serons là pour la dernière émission. Nous serons le trio complet. Donc, Jean-François, Caroline, ainsi que moi-même. Et puis, donc, on va de retour le 10 janvier en force à 20h. Donc, au menu ce soir, entrevue, entrepreneuriat, technologie, musique. C'est pas mal nos thèmes principaux. Et puis, donc, je vais enchaîner avec notre invité qui, ce soir, est en direct au téléphone. Je cherche le bouton téléphone. Il est là. Donc, notre invité ce soir est M. Alain Brebion, conseiller en sécurité financière pour Assure Finance. Donc, bonjour Alain. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Louis-Sébastien, je t'entends très bien.
Super, on t'entend bien aussi, je vais lever un peu le son.
Tu es dans une montagne?
Donc au loin, dans les montagnes, non, c'est pas une montagne. Le Cap Saint-Ignace, c'est pas une montagne.
Non, je suis juste dans les couloirs du studio à côté de vous, alors regardez.
Ah bon, mais t'aurais dû venir ici tant qu'à ça. Non, on t'entend comme si t'étais là, ça c'est sûr.
OK.
Donc bienvenue dans l'émission des Technopreneurs.
Merci.
Merci d'avoir accepté l'invitation, je crois qu'il y en a un qui vous a tordu le bras pour cela.
Oui, il a pas eu beaucoup d'efforts à faire. Non, mais effectivement, il y a un autre Brebion dans la salle, donc t'es un petit peu entouré, même si c'est pas physiquement. Louis, ben,
je m'en sortirai jamais, là, je suis toujours entouré.
Mais
là, une chance que j'aime mieux avoir Alain au téléphone et Jean-François studio, parce que les deux en studio, j'aurais perdu le contrôle, je pense. Je vous ai déjà vu aller les deux ensemble, donc c'est de famille. Donc Alain, t'es conseiller en sécurité financière depuis plusieurs années, je crois.
Ben écoute, oui, j'ai toujours, en fait, comme tu le sais sans doute, puisque tu connais bien Jean-François, on n'est pas né à Cap-Saint-Ignace ni à Lévis, donc dans notre ancienne vie en France, j'ai travaillé déjà dans le monde de l'assurance, dans le monde financier, on peut dire au sens large, et puis en fait, ça fait à peu près une douzaine d'années là qu'au Québec, je suis effectivement devenu conseiller en sécurité financière en découvrant un peu les pratiques et puis la clientèle ici au Québec et en région en particulier. Donc ça fait une douzaine d'années environ que je pratique ici.
Donc, OK, donc tu avais déjà un bagage en France que tu as apporté avec toi ici au Québec.
Oui, c'est ça, un bagage, disons que c'était, ça m'a permis de constater qu'en fin de compte, il y a pas tant de différence que ça, parce que la France et le Québec, ça se rejoint quand même sur le, beaucoup de choses, sur le système social, le système de protection, santé, enfin, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, l'assurance, mais il y a aussi des vraies différences que j'ai pu noter. D'ailleurs, ça m'a permis au passage de connaître un petit peu, justement, les deux mondes, entre guillemets, et de pouvoir offrir, par exemple, aux immigrants francophones, de pouvoir, comprendre un peu les différences qu'il peut y avoir entre les deux systèmes et permettre de leur expliquer comment ça fonctionne ici d'avoir un petit peu cette traduction possible pour les immigrants francophones en particulier.
OK. Est-ce que c'est ce qui t'a amené à venir au Québec, le monde financier, ou je pense que c'est d'autres raisons qui t'ont amené à venir?
Non, c'est ça. La raison, c'était pas de venir absolument travailler aussi dans mon domaine au Québec. Mon principal objectif, c'était de venir effectivement de vivre au Québec. J'ai envie de dire, j'aurais pu exercer n'importe quel métier pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire qu'au fond, c'était plus un enjeu un petit peu plus vital que simplement que de pratiquer mon métier ou de développer des choses comme ça. Donc, pour faire court, on a connu une expérience au départ en étant donc copropriétaire dans une auberge. On a fait de l'hébergement pendant 3 ans, le temps de comprendre justement comment écrouler un plan financier assez rapidement. Et puis, quelques temps après, on s'est reparti un petit peu ici, chacun avec ma conjointe qui travaillait dans le milieu hospitalier, chacun dans notre domaine. On a reparti, un autre plan de carrière, entre guillemets, pour reprendre nos bases et puis permettre de bien s'implanter ici. Mais effectivement, j'aurais pu effectivement peut-être pratiquer d'autres métiers. J'ai pratiqué pas mal de choses différentes, dans mon ancienne vie en France. J'avais des fonctions différentes dans la compagnie où je travaillais. Mais disons que ce qui me plaît beaucoup ici, c'est justement de pouvoir exercer pleinement ce métier de conseiller en sécurité financière, qui est vraiment passionnant. Pour ceux qui le vivent, la plupart en général le font avec passion, sinon ils le font pas.
Non, c'est ça, faut être passionné, parce qu'on vient conseiller des familles ou des entrepreneurs ou des gens à avoir une sécurité financière. D'ailleurs, on entend souvent ça, sécurité financière. Comment tu me définis ça pour toi, la sécurité financière, c'est quoi? Ça l'englobe quoi?
À la base, justement, et puis c'est un peu le principe du site, quand je parle d'Assure Finance, je veux souligner simplement que je suis conseiller. Je travaille avec une bannière qui s'appelle SFL. Ça, c'est la bannière à laquelle je suis rattaché, qui me permet de travailler dans le monde du courtage, c'est-à-dire d'offrir des produits de diverses compagnies, que ce soit sur le domaine assurance ou le domaine finance. Alors, sécurité financière, effectivement, à la base, je dirais que ça commence par se dire déjà, que ce soit pour un ménage ou une personne seule ou une petite entreprise ou une très grosse entreprise, la base est toujours la même. On regarde les revenus et les dépenses et on essaie de maîtriser les dépenses tout en faisant progresser les revenus. Ça a l'air basique, mais ça commence quand même par ça. Déjà d'identifier quand même, d'avoir un plan financier, ça commence par des bases solides. Et puis ça permet de dégager, on laisse faire bien sûr à chaque niveau une balance positive. On peut appeler ça de l'épargne pour les ménages, ou des investissements pour les entreprises. Donc on essaie effectivement de partir un petit peu de là pour faire en sorte que l'argent n'aille pas se perdre dans les intérêts à 20% des cartes de crédit ou des choses de même. Ou aussi d'essayer de récupérer le plus possible des quelques subsides, des subventions gouvernementales qui peuvent exister dans les régimes, par exemple les régimes épargne-études, les REER ou les CELI, etc. Tous ces avantages permettent effectivement d'optimiser un petit peu l'argent qu'on arrive à mettre de côté parfois difficilement. Donc c'est ça, la sécurité financière, c'est au fond d'accompagner les gens ou les petites entreprises, les travailleurs autonomes dans leur effort, pour leur permettre au fond d'atteindre leurs objectifs. Le plus important, au fond, c'est les objectifs de chacun. Ce sont pas les miens. Hein. Moi, j'ai mes propres objectifs, mais j'essaye de faire en sorte que chacun puisse réaliser pleinement. J'aime pas dire les rêves, parce que les rêves, c'est un petit peu trop vague, un petit peu trop général, c'est pas assez quantifiable, mais que les gens puissent réaliser au moins leurs objectifs à court ou moyen terme.
OK, donc tu parles de clientèle, de familiale, d'entreprise. C'est-tu un peu ce qui compose ta clientèle, ou tu spécialises plus dans un créneau qu'un autre?
Je me spécialise, en fait, j'ai envie de dire que au fil du temps aussi, c'était pas forcément comme ça au début de ma carrière ici, mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins, à la fois sur les protections d'assurance ou sur l'optimisation des efforts d'épargne de chacun. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup, il y a une population qui est souvent, malheureusement, peut-être un petit peu oubliée. On pense souvent, conseiller, on a une image parfois peut-être un petit peu faussée, en se disant, c'est des gens, ils s'intéressent au fond qu'à des professions aisées, puis que voilà, je veux pas les citer, mais les médecins par exemple, sont des gens qui sont ce sont pas nécessairement les gens les plus nécessiteux de la société, mais très bien, et puis voilà, ils travaillent fort aussi pour arriver à ces résultats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà des moyens assez importants et qui essaient de les optimiser grâce à la fiscalité, grâce à des produits avantageux, etc. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une population aussi qui était à la fois des jeunes couples, des jeunes familles, mais assez entreprenants, je vais dire, si ce n'est entrepreneurs, mais au moins entreprenants, c'est-à-dire des gens qui veulent avancer dans la vie, qui sont positifs, qui sont optimistes, et qui ont besoin d'avoir quelques conseils, effectivement, pour les aider à prendre des risques, au fond. Hein. Moi, ma job, au moins, au fond, c'est simplement qu'il y a des risques dans la vie, tout le monde y est soumis. Mon travail, ça consiste à les évaluer, ces risques-là, puis d'essayer de faire en sorte que les gens puissent les prendre, principalement pour l'assurance, c'est à ça que ça sert. Hein. C'est de se dire, une société qui prend jamais de risques et qui n'avance pas, c'est l'URSS des années 50, il n'y avait pas d'assurance là-bas. L'assurance n'existait pas parce que c'est l'État qui régissait tout. Et dès qu'une société est développée et prend des risques et encourage le risque, à ce moment-là, il faut avoir des contrepoids comme l'assurance, par exemple, pour permettre aux gens de dire, oui, je prends des risques, mais si jamais ma maison passe au feu, si jamais je suis atteint d'un cancer, si jamais il m'arrive une bad luck dans la vie, ça va pas m'empêcher de continuer à réaliser mes objectifs. Ou en tout cas, ça va m'aider à pouvoir les reprendre.
D'ailleurs, dans toutes ces protections qui existent justement pour éviter, pallier s'il arrive un problème, c'est lequel qui est un incontournable qu'il faut absolument avoir, c'est sûr qu'on peut pas se passer de ça. Là.
Je vais dire, là c'est une bonne question, Louis-Seb, mais il y a beaucoup de réponses. Tu pourrais avoir des réponses différentes parmi les clients, mais même selon les conseillers. Il y a des logiques un peu différentes qui tiennent probablement à leur perception du risque ou à leur histoire aussi, tout simplement. Parce que moi, j'ai une histoire, d'autres conseillers peuvent en avoir une autre. J'ai envie de dire que il y a quelques années, la réponse à ça, c'était de toute façon, il y avait l'assurance, je parle de l'assurance seulement là, il y a l'assurance vie, et puis avec ça, j'en remonte à 30-40 ans là, les familles, les entreprises, etc., tout le monde prenait de l'assurance vie, au Québec en particulier, c'était un produit extrêmement populaire, mais il n'y avait pas d'autre réponse, voilà. Puis dedans, avec l'évolution de nos sociétés, l'allongement de la vie humaine, le fait aussi que, parallèlement à l'allongement de la vie humaine, c'est plutôt une bonne nouvelle, on vit plus longtemps, on vit plus vieux, mais l'autre côté, le pendant de ça, c'est que on déclare des maladies de plus en plus souvent, des invalidités, plus souvent dues à des maladies d'ailleurs qu'à des accidents, parce que le nombre d'accidents diminue aussi finalement, accidents de travail ou accidents d'auto.
Donc, mais parallèlement à ça, c'est plus les maladies maintenant que les...
Voilà, les maladies sont beaucoup plus... Il faut savoir quand même qu'au Canada, sur 100 personnes, là je parle des décès, là, mais sur 100 personnes qui décèdent, il y en a 97 qui décèdent de maladies et 3 d'accidents.
Okay.
Et dans la croyance, je vais dire, en général, personne ne trouve ce chiffre parce que tout le monde pense qu'il y a beaucoup plus de décès par accident. C'est une surévaluation parce qu'on en parle plus, parce que ça fait la une des journaux. Mais c'est sûr que la madame de 30 ans qui a une sclérose en plaques, ça fait pas nécessairement la une des journaux tous les jours. Or, il y a beaucoup plus, il y a des cas très très nombreux qui sont malheureusement qui se déclarent. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que ces maladies surviennent. Donc, par rapport à ta question, je dirais que moi, principalement, je trouve que le produit qui a changé un petit peu même ma doctrine en matière de travail, enfin de ma pensée, c'est l'assurance maladie grave qui est survenue dans les années, en fait, ça arrivait aux États-Unis dans les années 80. C'était suite en fait à la première opération à cœur ouvert du professeur Barnard, pour les plus anciens. Donc il a fait une opération en fait à cœur ouvert avec un donneur, et puis il a opéré quelqu'un. Puis ce monsieur qui l'a opéré, c'est la première fois qu'on faisait ça dans le monde, la première opération. Puis en fait, ils se sont aperçus que les coûts que ça représentait, cette opération-là, avec la transplantation du cœur, etc., la personne qui était sur le lit d'hôpital pour être opérée, elle n'avait pas les moyens de la payer.
Okay.
C'était simplement, on s'est dit à cette époque-là, puis lui, il s'est dit ça, il dit très bien, on est en train de faire des choses extraordinaires, novatrices, pour l'époque, mais qui va payer ça? Puis c'est lui, au fond, qui a développé avec son frère le concept d'assurance maladie grave en disant, je vais faire en sorte que développer ce produit-là, ça va permettre aux gens de pouvoir... on est aux États-Unis à cette époque-là, le système de santé n'est pas comparable au nôtre, mais ça prouve simplement que malgré tout, cette logique, elle existe toujours. C'est-à-dire qu'on est atteint aujourd'hui des avancées technologiques très 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 loin. Enfin, on va très très loin pour faire des choses extraordinaires, pour repérer les gens, pour interdire, faire des grèves de main, faire des choses extraordinaires. Mais les gens se rendent pas compte que ça peut coûter des opérations de même 50 000, 100 000 dollars, 200 000 dollars. Bon, des montants qu'on n'imagine pas parce qu'au fond c'est un peu noyé dans le système de santé. Mais la réalité, bah, c'est ça. C'est est-ce que on va être capable, tout, en tant que société, de se payer tout ça pour tout le monde, au même niveau. Et la réponse, malheureusement, elle est de plus en plus non, parce que surtout pour des gens qui n'ont pas de protection, comme les travailleurs autonomes. Hein, travailleurs autonomes, ils sont autonomes à tous les sens du terme, puisqu'ils n'ont pas de régime collectif, ils n'ont pas les mêmes protections que les autres. Ils ont pas droit à des protections qu'on peut trouver dans les grandes entreprises. Et ben ces gens-là, s'ils sont malades, s'ils ont des problèmes de santé majeurs, ben ils se trouvent un peu démunis. Donc j'ai envie de dire que la protection, pour moi, numéro un aujourd'hui, parce que c'est celle qui entraîne le plus gros, les plus gros problèmes financiers. Hein, c'est surtout pour ça, c'est l'assurance maladie grave.
Voilà. Donc la maladie grave, là, on parle de les formes de cancer ou...
On parle, en fait, on peut aller jusqu'à... aujourd'hui, c'est, il y a 26, 27 maladies qui sont couvertes. Les plus importantes, les plus fréquentes, c'est tous les cancers, effectivement, qui représentent une grande partie, effectivement. Ça représente un pourcentage important. Les maladies cardiovasculaires, aussi bien les crises cardiaques que les ACV, puis toutes les autres maladies que je ne vais pas toutes citer, mais elles sont des maladies dégénératives. J'ai cité la sclérose en plaques, par exemple. C'est une maladie extrêmement répandue, y compris dans nos régions, qui est un peu embêtante, parce qu'en fait, la personne peut être atteinte pendant beaucoup d'années avec des hauts et des bas, et puis on n'en guérit pas vraiment, quoi. Donc c'est ce qui est le plus embêtant, je trouve, ce sont toutes ces maladies là dont on a du mal aujourd'hui à trouver l'issue, toutes les maladies dites dégénératives, parce qu'elles entraînent des coûts financiers invraisemblables et sur plusieurs années.
Donc c'est des assurances comme ça, tiens, on parle d'une assurance vie, c'est quelqu'un qui va donc tu vas toucher l'assurance sur
non,
la
c'est
vie.
Pas une assurance vie.
Là c'est sur la maladie,
c'est la
donc
maladie,
c'est ça j'amenais ma
sur
réflexion
les soins,
à dire.
Les frais
OK, c'est ça. Donc à partir du moment où j'ai une assurance comme ça, à partir du moment où on me déclare un cancer, ben là je peux avoir cette assurance là qui va m'aider à couvrir.
Sauf que je pense que il y a un point là dont tu pourrais nous parler, c'est qu'aujourd'hui la complexité elle est dans le fait que les compagnies qui les compagnies de fonds, les compagnies aussi qui créent ces produits financiers-là, ont un but aussi, eux, de leur bord, c'est aussi d'optimiser le risque, mais le risque financier pour eux. Et qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il ne suffit pas simplement de simplifier au terme cancer ou d'autres termes d'eux-mêmes pour dire, bah, ça y est, j'ai une assurance contre le cancer, quand j'aurai le cancer, on va tout me payer. Parce qu'il faut comprendre aussi que, et je pense que c'est ça aussi le rôle d'un conseiller là-dedans, c'est de te faire comprendre qu'il y a différents critères, il y a différents... points qui sont reliés même des fois à des surprimes ou des choses de même, qui font en sorte que c'est pas si évident que ça, parce que de toute façon, quand t'as une maladie, c'est jamais une maladie toute bien faite, toute prête à l'emploi, dans le sens où des fois c'est des maladies qui sont même des comment je pourrais dire
des amalgames,
récidives.
Comment?
Des récidives.
Non, mais pas forcément, mais t'es des genres de mutations finalement. Tu sais, on connaît, bon ben moi mon beau-père c'est ça qu'il a eu. C'est des mutations qui font en sorte que ta maladie n'est pas forcément déclarée comme exactement
comme
celle qui était marquée dans le contrat.
Plusieurs morceaux de maladie.
Voilà.
Qui
Donc on peut pas tout simplement dire aller voir un assureur ou une compagnie d'assurance pour dire ah ben je sais qu'il y a tant de pourcents qui vont avoir un cancer, donc je vais me protéger là-dessus. C'est pour ça que ça prend, puis il y a des antécédents, puis il y a ta consommation d'alcool, de tout ça. Donc je pense que c'est ça aussi, ce point-là, qu'il faut faire attention, c'est que l'assurance vie, c'est soit tu vis, soit tu meurs. Donc c'était pas compliqué, le moment où la décision était faite, c'est quand tu meurs. Mais là, le jour où tu déclares une maladie, c'est pas si facile que ça d'arriver puis de dire, ben voilà, je suis malade, donnez-moi mes sous, là.
Non, mais en fait, pour ce type de produit, on va pas effectivement trop entrer dans toute. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement, on en reviendra tantôt sans doute. Le rôle du conseiller est essentiel sur ce genre de protection. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas magasiner ça comme une assurance voyage.
Exactement.
Une assurance voyage, mais c'est sûr que on fait un voyage. Moi, assure-moi pour l'annulation des vols et puis les bagages, etc. C'est clair, quoi. C'est des choses qui sont quand même relativement accessibles à beaucoup de consommateurs. Là, on est dans un domaine effectivement qui touche un petit peu au médical. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que les définitions des assurances maladies graves, justement, on va reparler d'un autre produit après, sont relativement claires. Elles sont même normalisées au niveau mondial. Donc on a des réassureurs, c'est-à-dire des réassureurs, c'est des compagnies plus grosses que les assureurs qui reprennent les risques à leur niveau, une partie du risque à leur niveau. Et c'est eux qui imposent au fond de dire, attendez, si quelqu'un qui est en Amérique du Nord ou quelqu'un qui est en Europe ou quelqu'un qui est en Chine aujourd'hui, ça c'est de plus en plus vrai, on va pas avoir 50 définitions de cancer différents, 50 définitions okay. de scléro, etc. Donc les définitions sont assez clairement établies, et moi en tout cas dans mon rôle de conseiller la transparence que je revendique, j'explique aux gens quand je les rencontre et que je leur parle de ces produits-là, je leur dis pas t'es assuré contre toutes les maladies graves,
c'est
etc.
Ça, exactement.
Mais il y a effectivement des définitions. Alors je vous avoue qu'on va pas lire le livret de A à Z, etc. Mais j'interpelle les questions, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire des gens, il y a des gens qui ont une sensibilité à tel ou tel type de risque ou de maladie. On va focuser là-dessus. Je réponds aux questions. Ils vont me demander si telle ou telle affaire est couverte. Et puis je donne aussi dedans, bien sûr, il y a effectivement, comme on le sait, il y a effectivement des limites parfois sur certains types de maladies où on va dire bah là ça c'est couvert ou ça c'est pas couvert. Mais je dirais que dans ce genre de contrat, avec quelques explications de l'entourage, y compris voire d'un médecin ou d'autres personnes, on peut se faire expliquer ces définitions. C'est quand même assez facile à comprendre. Ce qui est moins facile, je dirais, dans notre métier, c'est plus tout ce qui tourne autour des notions d'invalidité. C'est un autre produit extrêmement important, puisque l'assurance invalidité, qu'on appelle parfois aussi assurance salaire, hein, c'est à peu près la même chose. L'assurance invalidité, elle fait appel à des notions qui sont un peu plus complexes encore, parce que c'est pas une question de définition de maladie, c'est plutôt la définition de ce que c'est que l'invalidité. Et là, on se heurte à un problème, c'est que les définitions d'invalidité peuvent changer d'une compagnie à l'autre, ou encore pire, par rapport à la définition, par exemple, de la CSST ou de la RAMQ, etc. Ils vont avoir des définitions d'invalidité différentes. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a un problème de santé assez important, qui ne peut plus travailler, là, pour faire simple, il va dire « je suis invalide ». Mais attention, t'es invalide selon quels critères ? Donc ça, c'est un des points aussi qu'on explique aux gens. C'est un produit extrêmement utile, l'assurance invalidité, parce qu'au fond, ça protège le revenu, hein. Donc ça veut dire que c'est un peu protéger la poule et pas les œufs, quoi. Si vous voyez l'image, c'est-à-dire que la poule va produire des œufs. Hein. Admettons que toi, Louis Sébastien, je te considère comme une poule. Voilà, tu vas produire des œufs au cours de ta vie avec ton travail, avec ton argent. Donc tu vas acheter une maison, tu vas acheter un chalet, tu vas acheter. Ça c'est les œufs, ça. Donc c'est bien d'assurer les œufs. Mais le plus important, c'est d'assurer la poule, parce que oui. Si la poule est plus capable de pondre des œufs parce qu'elle est invalide, on revient à zéro. Quoi.
D'accord.
Excuse-moi, Louis Sébastien, l'image de la poule. Hein.
C'est correct. Tu m'avais parlé de fou rire tantôt. Je n'ai quasiment eu un pendant que JF faisait la poule devant moi presque.
Mais pour revenir là-dessus, là, étant donné que à ce niveau-là, tu abordes des sujets plus confidentiel avec les clients, là, parce que quand on parle de maladie, tout ça, c'est les gens doivent quand même, malgré tout, te livrer de l'information qui est très précise. Comment tu fais, toi, le lien, comment tu établis ce lien de confiance que tu dois avoir avant même d'établir un lien commercial? Comment tu établis ces liens de confiance pour que les gens puissent, justement, te faire ces confiances et te délivrer tout ça? Parce qu'il y a des fois où les seules personnes avec qui on a parlé de ça, c'est soit à notre médecin ou à nos proches très très proches. Et encore, il y a des fois où on dit des choses au médecin et des fois même sûrement à toi que on dirait pas à nos conjoints, conjointes ou aux gens de la famille. Donc, c'est quoi ta façon de faire, ton approche qui fait que les gens acquièrent une confiance petit à petit avec toi?
Ça c'est effectivement la confiance est effectivement à la base de tout, mais je dirais que même la confiance pour moi de toute façon c'est le fait de dire, c'est un peu comme les médecins d'ailleurs comme tu disais tantôt, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une vision globale sur les choses, de pas avoir une vision seulement ciblée sur un produit, ciblée sur un risque, vraiment. Je me présente comme étant quelqu'un effectivement qui veut établir une relation à long terme, c'est-à-dire que quand je rencontre le monde, c'est pas pour aller entre guillemets vendre un produit d'assurance, repartir et puis bye, je vais passer à un autre. Moi, j'estime à chaque fois, en tout cas, c'est ma perception. Maintenant, il faut que ce soit partagé par la personne qui est en face. C'est vrai que mon approche est parfois, d'ailleurs, de rencontrer le monde, de les connaître, de savoir. En fond, moi, je choisis aussi avec qui je veux travailler. C'est-à-dire, pour le dire clairement, j'ai des valeurs, j'ai des façons de travailler sur la transparence, l'honnêteté, la rigueur, etc. Et je considère à un moment donné que si je me trouve en face de quelqu'un qui a pas du tout ces valeurs-là, qui est même complètement à l'opposé de ça, je risque probablement dans le futur d'avoir des problèmes avec, parce que ça peut pas fonctionner Alors, c'est rare, hein, ça, j'avoue quand même que ce genre de situation est rare. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en établissant, moi aussi, il faut que j'ai confiance, quoi. C'est-à-dire, la confiance, c'est dans les deux sens. Et si cette confiance s'établit, je dirais qu'après, l'histoire de révéler des informations quand on pose des questions, comment dire, ben d'abord, on a deux manières de faire, hein. Il y a certains clients qui vont effectivement être en confiance et puis ça leur pose pas de problème de raconter leur histoire comme ils le feraient avec un médecin. Mais effectivement, de ce point de vue-là, on a des règles de confidentialité qui vont presque aussi loin on a le secret professionnel, ça s'appelle pas secret médical, mais ça revient au même. Mais au-delà, il y a des gens qui vont, admettons que je trouve des gens qui sont un petit peu réservés ou qui sont un peu gênés, si je sens qu'ils vont pas se livrer nécessairement ou qu'ils vont pas répondre facilement, bah il y a pas de problème, la plupart du temps on a la possibilité dans les contrats aujourd'hui, maintenant pratiquement toutes les compagnies avec lesquelles on travaille, de déléguer cette fonction là à une infirmière, en fait à une personne qui va faire le questionnaire et puis les investigations nécessaires, et si quelqu'un, moi ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me demande, me dise non je veux pas répondre et puis j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre, mais si ça arrivait j'ai une réponse, en tout cas c'est ok, pas de problème, c'est une infirmière qui va venir au fond poser toutes les questions, et de toute façon on peut le déclencher aussi en fonction un petit peu c'est vrai que parfois on se dit c'est un petit peu plus rapide aussi de travailler de cette manière-là. Donc l'infirmière doit aller chercher des prélèvements d'urine ou de d'autres choses, on va profiter de l'occasion, on va dire bah c'est elle qui va poser au fond tout le questionnaire médical, et donc à ce moment-là les gens sont vis-à-vis de quelqu'un de plus neutre, on va dire, du domaine médical, et puis ils n'ont pas de problème. Mais j'ai pas à date en tout cas rencontré vraiment de difficultés sur le fait que les gens à partir du moment où les gens sont OK pour entamer le processus d'achat d'un contrat, ils vont aller jusqu'au bout, quoi. Puis en fait, il n'y a pas de problème avec ça en général. Ils savent très bien que de toute façon, on leur dit, on leur explique aussi que il y a absolument aucun intérêt à les raconter ou à dissimuler des choses, parce que tout se sait dans notre monde aujourd'hui, puis c'est de plus en plus vrai, parce que sans vouloir être épeurant, mais à partir d'une goutte de sang, on peut connaître l'histoire des gens sur 4 générations pratiquement. Donc c'est pas vraiment une bonne idée de faire des fausses déclarations, puisque les conséquences peuvent être très graves, mais j'avoue que c'est pas un gros risque, quoi.
Parce que la conséquence peut tout simplement être que t'es pas payé, quoi.
Clairement les compagnies, c'est sûr qu'elles sont armées pour mais je dirais que bon, en tout cas moi j'ai alors là il y a une petite différence peut-être. Quand j'étais en France, je me souviens que les compagnies avaient des armées d'enquêteurs sur l'assurance vie, sur plein d'affaires, etc. Ben il y en a sans doute ici aussi au Québec, hein, probablement, mais j'ai pas le sentiment qu'on est sur un sentiment de sur ce rapport-là, ce rapport de défiance ou le rapport de je veux pas raconter toutes les affaires. Moi j'ai l'impression en général que ça se passe plutôt bien, parce que ça, de toute façon ça va pas très loin. Le fait de pas raconter vraiment honnêtement les choses, et puis ça fait partie du rapport de confiance. Mais c'est vrai que la confiance à la base c'est quelque chose de capital. Comment ça se bâtit? C'est une relation humaine, hein. Donc c'est d'écouter les gens, à mon avis à la base déjà c'est de commencer par écouter vraiment les gens. Ça veut dire c'est pas seulement ne pas parler comme je suis en train de le faire en ce moment, ça c'est une chose, mais l'écoute c'est une écoute active, c'est-à-dire d'être capable de comprendre ce que veulent les gens, une écoute active, de reformuler au fond leurs besoins, et puis d'essayer de savoir où sont tout. Ce que je dis toujours, c'est que il y a plein de risques dans la vie, là. La vie, elle est comblée de risques, mais on peut pas se prémunir contre tout. C'est pas possible. On peut pas ça ne sert à rien de prendre des assurances contre l'invasion des extraterrestres, mais ça existe. On peut le mesurer, le risque, hein. Il existe, le risque. Il n'est pas zéro. Il n'y a aucun risque à zéro. Sauf que, voilà, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut faire des priorités, et puis surtout pour des gens comme les travailleurs autonomes qui débutent, admettons, qui se lancent en entreprise, eux, ils sont dans le risque maximum, puisqu'au fond, c'est les risques d'entreprise qui est le plus important pour eux. Donc, il faut les accompagner aussi à certaines étapes de leur vie. Il y a des étapes où on prend plus de risques, et puis d'autres étapes où on en prend moins.
Ah, c'est exactement vers là que je voulais m'en aller. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon premier travail professionnel, j'arrivais avec des assurances collectives, un programme de retraite, plein de choses. Je cochais les oui, cochais non, groupe A, tu sais. Ouais. Je partais, puis là, j'avais mon assurance. Mais il y a quelques années, j'ai lâché mon emploi pour partir à mon compte. Puis là, oups, il faut savoir s'entourer de programmes, justement. C'est là que le conseiller comme toi vient aider à complémentarité, s'assurer d'avoir des revenus s'il arrive quoi que ce soit. Ou moi, j'avais déjà au niveau de l'assurance hypothèque ou maladie ou au niveau des enfants, mais il y a aussi la personne en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui est important là, de regarder tout d'abord quand on part à notre compte? Si on a bien fait nos devoirs, là, qu'est-ce qu'il faut?
Ben, il faut à la base effectivement regarder d'abord où on est la personne déjà. Par exemple, est-ce qu'elle est avec un conjoint qui lui-même a une assurance collective? Ça change beaucoup de choses parce que tu peux adhérer au régime collectif, tu dois même adhérer au régime collectif du conjoint s'il y est. Bon, il y a toute la considération quand même qui est de faire le tour un petit peu pour voir où la personne en est. Puis ensuite, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis, quand on parle de toutes les protections, là, puis Il y a toujours la formule Cadillac, là, enfin la formule idéale, celle qu'on aimerait tous avoir, voilà, qui coûte toujours un petit peu plus cher. Et puis tu as toujours aussi une formule, toujours dans toutes les protections pratiquement, ce qu'on appelle des formules temporaires, c'est-à-dire des formules au fond qui vont être moins chères, qui vont permettre de démarrer et d'être couvert correctement, même pour une assurance vie, par exemple. Je pense souvent les gens se disent ouais, mais j'aimerais avoir une assurance vie, puis ils estiment leurs besoins, enfin on estime les besoins ensemble, on les aide à calculer comment. Finalement, c'est quoi l'impact d'un décès dans une structure familiale ou dans une structure d'entreprise. Puis à partir de ça, on a évalué un besoin. Ben, c'est sûr qu'il y a des réponses qui peuvent être avec des produits, les produits permanents, qu'on appelle permanents. C'est-à-dire, au fond, c'est des produits qui vont garantir le paiement de la capitale, quel que soit le moment, au fond, du décès. Puis des produits, alors ça, c'est des produits intéressants, mais c'est des produits qui sont quand même un peu plus chers, qui sont pas abordables par tous les budgets. Puis si on voit que le budget n'est pas là, puis que la personne a quand même ce besoin de protection, ben, on va passer par une étape qui s'appelle l'assurance temporaire, en gros, là, puis qui va permettre de payer moins cher, puis de voir plus tard. Voilà, on protège la personne et son état de santé, surtout au départ, et puis plus tard, ben, quand les moyens sont un petit peu plus importants, là, on peut passer à une phase un petit peu différente pour avoir un produit, au fond, un petit peu plus complet ou un peu plus intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. Il y a simplement des bonnes ou des mauvaises analyses, quoi. C'est-à-dire qu'il faut juste se poser la question à un instant T pour une personne, en fonction de ses moyens, en fonction de ses budgets. C'est quoi le meilleur compromis qu'on peut avoir pour protéger au maximum les risques les plus importants. Mais on n'a jamais une solution idéale. Il y a forcément toujours des choses qui seront à protéger peut-être un petit peu plus tard. Ou... Puis il faut tenir compte aussi du fait que les gens continuent de vivre, bien sûr. Beaucoup me disent ah ben oui, mais je peux pas payer que des assurances. Non, c'est certain. Mais on peut pas non plus s'en passer complètement parce que quand il y a un problème, là par contre, les situations peuvent être très critiques. Et puis de toute ma carrière, je peux vous le dire, chaque fois que j'ai été versé des chèques d'assurance vie, des chèques de capital quoi, à la famille ou des capitaux d'assurance maladie grave, ça m'est arrivé quelques fois, j'ai jamais vu personne me dire non, j'en ai pas besoin de l'assurance.
Non, c'est sûr.
Jamais, je sais pas pourquoi, mais jamais personne me dit non, c'est correct, là on n'a pas besoin d'assurance.
Bon. Okay, garde-le.
Donc, mais c'est sûr que la perception, bon, c'est toujours pour l'assurance des gestes, c'est un peu compliqué parce que c'est les bénéficiaires qui vont avoir le chèque, mais c'est quand même simplement. Moi, mon rôle aussi, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens à quoi ça sert. On prend pas des produits juste parce que le voisin en a ou parce que papa m'a dit de le prendre. C'est simplement, il faut comprendre à quoi ça sert. C'est quoi le risque et à quoi ça sert. Et qu'est-ce que ça peut changer au fond dans la vie de quelqu'un. Parce que si ça change rien, c'est pas utile.
Et justement, tu parlais d'image là, des conseillers, puis même on dit le mot assureur là qui est pas un mot très beau finalement là, parce que dans la tête des gens c'est un peu galvaudé là. C'est quoi le nouveau conseiller le nouveau conseiller de 2016 là, c'est quoi qui selon toi là qui doit être donc c'est quoi la différence avec peut-être l'assureur d'il y a 30-40 ans que tout le monde se souvient là aujourd'hui, c'est quoi les compétences qu'un, parce que tu sais, mis à part qu'ils pourraient tout t'appeler là, mais les autres personnes, tu sais, qui à la limite vont aller voir dans d'autres compagnies ou quoi, c'est quoi les critères qui font qu'ils vont être avec une bonne personne aujourd'hui?
Ben, je pense qu'effectivement, le conseiller doit être disruptif ou pas. C'est-à-dire que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, notre métier, comme tous les métiers, sont en train d'être traversés par des gros, gros changements, soit au niveau, bien sûr, de l'arrivée, parce que les nouvelles technologies, ça fait longtemps qu'elles sont arrivées, mais elles sont en train de faire des gros changements dans nos métiers, dans les structures des compagnies, et puis dans la distribution des produits. Donc, les nouvelles technologies, mais surtout aussi les nouvelles formes. c'est pas seulement les technologies, c'est les nouvelles formes de marketing, on va dire au sens large, de rapport entre, au fond, les consommateurs et les producteurs, qui sont en train d'être bouleversés. Donc à l'intérieur de tout ça, effectivement, l'image, c'est bien l'image de l'assureur, pas nécessairement d'il y a 30 ou 40 ans, mais enfin en tout cas, une image qu'on veut voir un petit peu s'estomper, c'est quelqu'un qui vient avec une valise avec plein de gros papiers à remplir, qu'on comprend pas toujours, qui nous fait signer des choses qu'on comprend pas toujours, et qui va nous gâcher la veillée pendant 2 heures le soir, ouais. Et puis qui va nous poser effectivement des questions, qui va revenir, et même à l'époque, je dirais qu'il y a eu une époque aussi où les conseillers venaient finalement, bon, parce que les moyens technologiques n'étaient pas là, ils venaient encaisser des primes, hein, ils venaient passer chez les gens pour aller chercher l'argent, hein, c'était comme il y a le conseiller qui passe, attention, il faut faire ton chèque ou il faut donner ton argent. Enfin bon, bon, on s'entend que tout ça, bien entendu, est en train de s'estomper, mais il y a aussi, c'est vrai qu'il y a une série de, comment dire, de, parfois dans notre profession, comme dans toutes, on a eu des moutons noirs aussi, des gens qui sont pas bien comportés. Dans le domaine des placements, on a tous entendu parler de l'affaire Lacroix, dans les investissements, bon, puis aussi les gens peuvent se dire aussi, oui, le conseiller au fond, il va vendre des produits en fonction de ses intérêts, de ses commissions, sans nécessairement respecter ça peut arriver. Je veux pas dire que ça n'arrive jamais, ça peut arriver. Mais sauf que ces boutons noirs, enfin ces personnes qui dévalorisent un peu le métier, comme dans tous les métiers, hein, tous les métiers ont leur ont ce genre de choses. On a une police quand même qui est organisée, qui est mieux organisée qu'avant, qui s'appelle l'Autorité des marchés financiers, qui fait en sorte quand même que, et c'est transparent, tout le monde peut aller consulter les résultats de tout ça, des enquêtes qui sont faites, etc. Puis nous-mêmes, on le voit, on entretient aussi ce genre de choses. C'est quand même très risqué de faire, de faire très très mal son travail. Bon, ça, donc le côté un petit peu négatif et puis envie ancien, moi c'est sûr que personne n'est parfait, hein, tout le monde peut faire des erreurs, mais en tout cas ma volonté à moi c'est de faire en sorte que les clients avec qui je travaille ou les gens que je rencontre soient aient suffisamment d'informations, suffisamment la capacité à comprendre au fond ce qu'ils vont acheter. Pour moi, ça m'arrange parce qu'au fond, ça fait en sorte que je m'évite éventuellement d'avoir des gens qui disent oh, mais tu m'avais pas parlé de ça, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu cette information, j'ai jamais eu mon contrat, etc. Bon, toutes ces affaires-là, moi, je les évite parce que je fais mon travail, avec des principes d'assurance qualité qui font en sorte que je dis ce que je vais faire et je fais ce que j'ai dit. Voilà. Ça a l'air tout bête, mais à la base de ça, c'est ça, à mon avis, qui établit un climat de confiance beaucoup plus que des annonces ou des annonces de taux ou je sais pas quoi, enfin des publicités.
Bon, ben super, c'était super intéressant, Alain. Merci beaucoup de tous ces éclaircissements. La meilleure façon pour te joindre, je crois que tu es présent assez sur Facebook.
Je suis présent partout.
Partout, oui.
Ben, de toute façon, Alain Brebion, là, si vous manquez un Alain Brebion sur Internet, là...
non, c'est ça.
Il faut vraiment que vous ayez mal cherché, franchement.
Il y a plusieurs espaces, mais c'est vrai que je travaille aussi de plus en plus beaucoup par... j'hésite, c'est pas que je peux donner des numéros de téléphone, mais en réalité, je travaille beaucoup par courriel et par... mon courriel est vraiment la clé de communication principale. J'ai abandonné les lettres dans Post Canada parce que j'y crois plus.
Non,
et puis mon courriel c'est alain.brebion @commercial.sfl.qc.ca. Puis avec ça, normalement, on doit être capable de me rejoindre en tout temps. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas d'heure de fermeture. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais c'est vrai que tous les contacts que je peux avoir avec les clients, soit par le courriel, soit par téléphone, soit par Facebook, c'est pratiquement en continu. Je m'arrête un peu la nuit, mais en réalité, c'est pas voilà, c'est.
T'arrêtes pour dormir un peu là.
Ça pourrait se faire. Oui, mais je dors aussi bien que je peux là. En tout cas, mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les structures qu'on pouvait avoir d'horaire, de jours de fête, de samedi, de dimanche, toutes ces affaires-là, c'est ça la destruction, quoi. C'est que on est dans un monde aujourd'hui où si on veut mettre des barrières et puis des frontières et puis des portes fermées partout, ben les gens vont aller ailleurs parce que moi le client Intel qui en plus a peut-être à Gatineau ou à Rivière-Ouelle ou je sais pas où, s'il a envie d'avoir un conseiller, s'il a vraiment une envie pressante d'avoir un produit là, il va à trouver, et puis si je suis fermé ou si je suis pas là, il ira ailleurs. Donc moi je suis là tout le temps, voilà.
Bon, ben parfait, merci beaucoup. Et puis donc on va aller en publicité et en musique, et comme à chaque semaine je demande à mes invités de choisir la musique, donc Alain nous a choisi deux chansons qui sont assez à l'opposé.
Donc, oui, ben ça c'est moi.
Quand j'ai vu les choix, ben j'en comprends, ben je comprends les deux en fait. Le Jean-Jacques Goldman avec la chanson Là-bas, donc c'est un peu tes origines françaises qui parlent. Et ensuite, on va enchaîner avec Alice Cooper, I'm 18. J'ai trouvé une version live qui date de 1990. Je voulais mettre d'autres choses que la version classique. Je suis un fan aussi d'Alice Cooper. On en a déjà parlé ensemble. Puis je trouvais que la version est trop vieillotte un peu. Puis la version live est un peu meilleure.
Ben, attention, Louis Seb, je suis pas si vieux que ça. Juste un mot, je peux te dire que moi, le premier vinyle pratiquement qui m'a été offert par ma marraine, Myriam, qui vit en Italie. Coucou si elle écoute, ça me faisait peut-être un jour. Mais en tout cas, elle m'avait offert ce vinyle dans les années 73, je crois. Enfin, dans ces années-là, 72-73, et puis exactement. Et moi, ça a été un choc pour moi. Parce que, tu sais, c'est vrai, j'étais plus habitué avec mes parents, variété française. Bon, on avait quand même le rock, quand même à l'époque, tout ça. Mais mon premier disque de, nous on appelait ça du hard rock, hein, pas de métal. C'est pas du métal pour vous. Pourtant c'est pas du métal de toute façon aussi.
Non, bah, Alice Cooper c'est plus du hard rock. Ouais.
Ah, c'est hard rock.
Oh, ouais, c'est hard rock.
Mais moi j'ai été subjugué par ça, puis ça m'est resté. Puis au fond, puis I'm 18, j'ai toujours 18 ans de toute façon. Donc pas de problème avec ça. C'est c'est un gars que j'aimais. Oui, c'est pas du métal ce que je disais, c'est parce que lui c'était plutôt cuir, hein, c'est ça.
Le glam. Donc,
et puis là-bas c'est Goldman, c'est parce que c'est la chanson qui évoque le mieux effectivement notre passage avec toute la famille, voilà, qu'on avait un besoin impératif de partir à tout prix. Voilà.
Super. Donc merci Alain, c'était très agréable de t'avoir dans l'émission.
Ben moi aussi, merci beaucoup. Je continuerai de vous écouter comme d'habitude. Alors.
Ben oui, notre fameux Alain B qu'on parle de temps en temps, s'il y en a qui ont deviné.
De toute façon, tu vas pouvoir faire un montage, on n'est pas en direct, là, c'est correct.
Ah oui, là, on est en direct sur la bande FM. le prochain coup, tu viendras en studio.
Ok, ça va.
Non, merci, mais par contre, tu sais ce qui serait bien, on peut l'annoncer officiellement, tu t'en vas en Thaïlande. Dans un mois et demi maintenant, deux mois, voir
la sœur.
Voir la sœur,
ouais.
Ça pourrait être bon de faire une live en direct là-bas.
Ah oui, bah oui. On va faire un live avec Claire
au téléphone.
Oui, bah oui, on peut l'essayer. Je laisse Jean-François gérer la logistique et tout ça.
On va s'organiser, ça serait vraiment bon.
Ça serait intéressant.
Le premier live de Thaïlande de la région.
Oui, parce qu'il y a plusieurs lives qui sont d'Europe. Je sais qu'il y a des émissions qui s'appellent en Europe, mais là, avec la Thaïlande, ça serait intéressant.
Mais ça marche très bien, Louis Seb, la liaison avec la Thaïlande du Nord fonctionne très très bien. Puis c'est sûr. En plus, je connais pas le rock thaïlandais, donc ça va être le fun. On va pouvoir.
Ouais, t'essaieras de me trouver un titre comme ça, je pourrais la mettre à la pause. Donc okay. Parfait. Donc pour nos auditeurs, restez en onde. On va être de retour après la pause, donc dans une dizaine de minutes environ. Donc okay. On enchaîne avec Jean-Jacques Goldman et Alice Cooper et ensuite le bloc pub. Merci. Bye bye.
Si fragile parfois. là-bas, loin de nos vies, de nos villages. J'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas.
J'aurais ma chance, j'aurais mes droits.
Mais papa,
et la fierté qu'ici je n'ai pas.
Papa,
ce que tu méritais est à toi.
Papa,
et si les autres imposent leur loi,
papa,
je te perdrai peut-être là-bas.
Papa,
je me perds si je reste là.
Papa,
la vie ne m'a pas laissé le choix.
Papa,
toi et moi ce sera là-bas.
Get out of this place. I go running. filthy! And your daddy calls me scum! Wrap your fingers all around me. I'm your
Vous voulez vendre votre propriété? HervéPouliot.com.
HervéPouliot.com.
Faites affaire avec un courtier immobilier professionnel et disponible pour vous.
Je vous offre gratuitement une opinion de la valeur marchande de votre propriété et vous propose une mise en marché personnalisée avec un service clé en main. Ne perdez pas votre temps et enlevez-vous du stress. Contactez-moi dès maintenant, HervéPouliot.com.
HervéPouliot.com ou composez le 418-254-29.
418-254-2911.
Vous avez une entreprise, mais vous manquez de visibilité sur le web.
Ah, c'est possible.
Vous n'avez aucun site web? Un site web désuet?
Ben là.
Aucune page Facebook? Même pas d'adresse courriel professionnelle?
Ah ben là, c'est pas sérieux.
Dracar Conception Web a une solution pour vous. Nous offrons des solutions souples et adaptées aux besoins et au budget du client. Pour un site web fluide, convivial et ergonomique, Dracar Conception Web, la référence en conception de site web à Lévis depuis 2012. Visitez le www.dracar.québec ou composez le 418-304-3090. Pour tous vos besoins sur le web, optez pour Dracar Conception Web.
Winnie le matin avec William Boivin. Un Maurice Richard, un Jean Béliveau, un Mario Lemieux,
un Patrick Roy,
un Ripo.
Je ne sais pas si Bill Foley nous a écouté la semaine dernière, mais il a suivi notre conseil de nommer sa franchise et son équipe les Golden Knights de Las Vegas.
Ben oui, absolument. Ouais. J'ai vu, évidemment, j'ai assisté à cette parade de bougons collective. Les gens qui disaient, ils ont copié sur le Titan avec les Batters. Come on, penses-tu vraiment que Bill Foley s'en crisse pas du Titan avec les Batters? C'est quoi ce siège? C'est une équipe de la Ligue nationale, à Vegas, c'est on the top of the world. Il n'y a pas... tu sais, Bill Foley n'a pas fait Google Images Gladiateur.
Oui, le matin, le seul fan des Browns de Cleveland qui prétend connaître le sport.
Du lundi au jeudi, dès 7h30 le matin.
Radio CJMD 96.9, vous êtes l'alternative.
Et vous êtes de retour à l'émission Les Technopreneurs, toujours en ondes à CJMD 96.9, l'alternative radiophonique, en direct des studios de Lévis et toujours en compagnie de Jean-François Brebion.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, on vient de se débarrasser d'un Brebion, mais il en reste un autre.
Tu
ne
te débarrasseras pas du deuxième, certain.
Non, celui-là, il est en studio avec moi, puis je peux pas le kicker out. Je peux fermer le micro, c'est trop de niaiserie. En général, il se tient.
Voler ton micro aussi.
Ouais, non, on commencera pas ça, là. On veut finir l'année du bon pied.
Oui.
Donc, on va parler un peu d'entrepreneuriat. Oui. Donc, j'ai eu des bonnes nouvelles ce temps-ci. Le concours Face au Dragon, est-ce que vous connaissez? Jean-François lui connaît. Moi, je connais. Connaissez-vous? Alors, on va savoir un peu c'est quoi. Donc, le Face au Dragon, c'est un concours entrepreneurial où les jeunes sont amenés à réfléchir à une idée, développer et structurer une idée en projet entrepreneurial et le présenter à...
CJMD 96.9, de l'alternative radio...
J'ai oublié de mettre pause à mon logiciel. Désolé. Va être correct de même. Bon, on reprend. Donc, Face au Dragon, concours entrepreneurial où les jeunes sont amenés à réfléchir à une idée, à développer et structurer cette idée en projet entrepreneurial et le présenter à un panel de jurés, les Dragons, afin d'obtenir une aide financière pour réaliser le projet. Donc, les critères généraux pour l'inscription, c'est d'avoir un projet entrepreneurial étudiant ou être déjà en affaires, une entreprise pré-démarrage ou existante depuis moins de 3 ans. Un deuxième critère, c'est de résider et ou étudier et ou travailler et ou avoir une place d'affaires à Lévis. Il y a beaucoup de et ou. Et pour le volet études, on accepte le secondaire, l'éducation des adultes, la formation professionnelle, le collégial ainsi que l'universitaire. Et le dernier critère, c'est d'être âgé de 30 ans et moins. Donc toi et moi, Jean-François, on n'est pas éligibles.
Non, effectivement.
Mais nous, on est dans
merci
le panel.
Merci de me rappeler que j'ai dépassé ce cap.
T'as maintenant atteint le
ça y est.
Dépassé le début de la trentaine.
Ça y est.
Mais non, Jean-François et moi sommes dans les chanceux qui jugeront ces projets-là. Donc, nous sommes dragons. Mais toi, Jean-François, c'est ta troisième année. Troisième année en tant que dragon.
Ouais.
Tu vas faire ça pas pire pour que tu choisisses encore 3 ans.
C'est parce que je les brasse un peu, je pense.
C'est correct. Je sais que tu contribues, tu as aidé au niveau du volet web. Et
aussi, ouais. C'est la première année que je m'implique un peu plus. En fait, je tripe vraiment, honnêtement, là... dans tous les projets d'implication que j'ai actuellement là, c'est un que j'ai fait au début pour aider là. Il y a 2 ans, c'était une personne là, qui s'occupait de ça à ce moment-là qui m'avait demandé de le faire parce que il y avait eu, en fait, j'ai joué le bouche-trou, hein, faut dire.
Okay, on va dire de même.
Mais et finalement c'est devenu quelque chose de super intéressant. En gros, le concours, c'est vraiment une demande qu'on fait aux jeunes, que ce soit collégial, universitaire ou secondaire, de monter un plan d'affaires, carrément. C'est la même chose qu'on demande à n'importe quelle entreprise, finalement. Et de monter un plan d'affaires autour d'un projet. Ça peut être un projet qui est dans le cadre de l'école ou un projet qui est dans un vrai cadre professionnel, finalement. Et ils doivent faire toutes les démarches, les mêmes démarches qu'une entreprise doit faire. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'à ce moment-là, il n'y a pas tous les soucis qu'on peut avoir quand on est en business déjà ou quand on a déjà de l'expérience là-dedans. C'est qu'il y a plus de créativité, il y a plus un peu de naïveté. Donc ça amène aussi à des situations qui sont assez drôles là-dessus. Mais c'est très, très, très surprenant à quel point il y a un naturel. Puis j'en parlais justement avec mon père là. Parce que lui au Cap Saint-Ignace, il en a pas parlé là parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, mais
il est
impliqué dans le Club Optimiste au Cap Saint-Ignace là, qui est un organisme aussi très intéressant là pour l'implication des jeunes et tout ça. Et en fait, un de ses groupes dont il s'occupe habituellement a présenté un projet pour Face au Dragon, Montmagny Lillet.
Ok.
Et on parlait de ça justement, c'est que tu sais, nous quand on compare avec la France, puis ici, on le fait souvent, puis on n'a pas le choix de le faire. Puis je sais que des fois, ça peut être fatigant d'entendre la vérité en face, et même de notre bord d'ailleurs. On critique aussi beaucoup la France, là, majoritairement. Mais on se rend compte qu'ici, il y a quand même un genre de naturel chez les jeunes. Je sais pas pourquoi. On dirait que les Québécois naissent avec une propension à devenir entrepreneur. Honnêtement,
la fibre entrepreneur.
Oui, réellement, je pense qu'il y a de quoi qui fait que. Ça a l'air facile, quoi. Tu sais, ça a l'air. Puis ça a l'air naturel pour certains de le faire. Alors, est-ce que c'est le contexte familial? Est-ce que le contexte culturel peut... Je sais pas.
Il y a une culture très forte au Québec là, sur l'entrepreneuriat.
Mais c'est impressionnant.
Par d'autres gens au Canada, anglais, où ce qu'ils disaient, on n'a pas autant de ressources et de
c'est
moyens.
Ça.
Puis peut-être c'est avec des valeurs plus...
Mais je pense que ça va plus loin même que le côté économique. Je pense que c'est vraiment culturel, à mon avis. Il faut en profiter parce que c'est ce qui fait la richesse d'un pays, hein, c'est les entreprises. Donc c'est un concours très intéressant. Si vous avez des enfants au secondaire, si vous avez des jeunes que vous connaissez au collège et universitaire, incitez-les à s'inscrire. C'est vraiment trippant. C'est pas si complexe que ça, dans le sens où il faut suivre les règles. Puis...
Non, c'est ça. Sur le site web, il y a justement les documents à télécharger, ce qui est le plan d'affaires et le montage financier.
Exactement.
Et aussi, il y a un document d'accompagnement qui est disponible. Donc, allez voir faceaudragon.com. Dragon au pluriel.
Ouais.
Et puis, il est encore le temps de s'inscrire.
Ouais.
Vous avez jusqu'au 16 décembre, donc jusqu'à vendredi, pour y aller. Et puis au niveau des bourses, au niveau secondaire, c'est des bourses allant jusqu'à 750 $ qui sont attribuées. Et puis au niveau de formation professionnelle collégiale universitaire, c'est jusqu'à 1 250 $. Donc c'est quand même des bourses intéressantes quand on veut starter de quoi. C'est pas des gros montants, mais c'est des montants qui...
Mais il y a des projets qui
requièrent un peu
moins. Sortent du lot. Et puis, juste pour donner une idée rapidement, là,
un type de projet.
Il y a un projet là qui a été fait qui s'appelle Entrep. Qui était un projet de
j'ai vu ça passer.
Ouais, qui est c'était l'année dernière finalement. Puis c'est pas vrai, c'était il y a 2 ans. Et en fait, Entrep là, c'était une plateforme pour réunir les entrepreneurs dans des projets, bon bref, entrepreneurs à l'université pour des projets tout ça. C'est Vincent Mendes, là, un de mes amis, là, qui est devenu un de mes amis, en fait. On est ouais. sur le comité, puis on s'est rencontrés, puis c'est quelqu'un de très intéressant, tout ça. Puis ben, maintenant, il est rendu en France. Il est revenu en France, c'était un Français, il est retourné là-bas. Et il est à la tête d'une organisation assez grosse, d'une grosse start-up, une vraie start-up, là, qui est soutenue par beaucoup d'organismes aussi en France sur l'entrepreneuriat. Fait qu'il a ramené aussi cette culture-là entrepreneuriale en France, qui était pas facile forcément à avoir en France parce que beaucoup de choses font que les entreprises, le libre entreprendre est bloqué pas mal. Donc c'est ce genre de projet qui peut devenir vraiment gros. Ou bien, j'en cite un dernier, c'est le jeune dont je me souviens plus le nom parce que je me souviens jamais des noms des gens. Donc, désolé. Mais le jeune de Saint-Henri qui a parti sa boutique de Lego en pièces détachées, c'est-à-dire qu'il récupère les Lego pour les revendre. Il les remonte et revend les kits, en fait. Là. Et ça, je trouve que puis ce jeune-là, je sais pas si on aura l'occasion de l'avoir un jour à la radio ici, là, mais
on peut s'arranger pour trouver.
Ouais, ça serait intéressant. C'est quelqu'un qui a tout compris déjà et que sa plus grande difficulté pour lui, ça va être de passer à travers les dernières années d'école secondaire sans avoir, entre guillemets, à se faire chier et à savoir que bah, finalement, il a un énorme potentiel. Fait que ça regorge de plein
d'idées.
Toutes
sortes de projets. Moi, j'avais vu il y a 2-3 ans deux jeunes qui voulaient faire comme une ligne de vêtements.
Exactement.
Ça s'appelle Fatality.
Oui, il va venir nous voir, lui, Fatality.
Ah ouais, ok.
Ouais, il est ambassadeur maintenant cette année.
Oui, c'est ça, parce qu'il était comme deux fois. Il s'est présenté deux fois dans deux écoles différentes, comme on disait. Fait qu'il y a des projets aussi. Puis moi, l'an dernier...
Ça, c'est William Parent.
L'an dernier, j'ai aidé une jeune étudiante du collège de Lévis qui avait un journal étudiant.
Ouais.
Et puis elle voulait comme continuer à faire vivre ça, mais via un blog. Mmh. Donc je l'ai aidé à partir un petit blog.
Non, c'est intéressant.
Chercher les côtés journalistiques. Là, fait que non, c'est très intéressant. Puis d'ailleurs, t'as récemment parlé avec Véronique Talbot.
Oui. Donc on va organiser à partir de janvier dans l'émission de radio.
Dans notre émission.
Dans notre émission, on va organiser une capsule là, spécifique aux dragons. Donc on va inviter soit des dragons, on va inviter
des ambassadeurs,
on va inviter des élèves, j'ai même demandé des élèves qui ont des projets actuellement à venir nous présenter ça. Donc ça va être à partir de janvier, je vous invite à le suivre, à les encourager aussi parce que c'est pas évident. Donc on veut essayer de faire mousser ça aussi parce que c'est quelque chose qui se passe à Lévis, c'est spécifique à Lévis, puis là on peut pas dire qu'il y a rien qui se fait à Lévis.
Non, en effet,
puisque justement c'est un concours qui existe déjà maintenant depuis 4 ans.
C'est ça, mais c'est la 5e édition.
C'est ça, donc 4 ans que ça a été fait, puis c'est la 5e édition.
Donc, oui, en effet, on va faire petite place à ce concours-là, parce que ça parle d'entrepreneuriat, puis comme un des sujets principaux de notre émission, c'est l'entrepreneuriat. C'est une très belle façon là, de donner une visibilité à ce concours-là. Donc, j'ai bien hâte de voir ceux qui vont accepter l'invitation, parce qu'on tordra pas de bras à personne, nous autres. On donne une opportunité. Puis on va voir qui
va. Fait qu'à partir du 17 janvier.
À partir du 17 janvier.
Véronique, va venir faire une petite présentation le 10 janvier.
OK.
Et après ça, le 17 janvier, on commence à accueillir des gens.
Bon, c'est super. Ça, j'ai mis hâte de voir ça. C'est très excitant. Donc, sinon, si on regarde un peu le nouveau réseautage dans la ville de Lévis, cette semaine, à la Chambre de commerce, c'est demain matin qu'aura lieu un matin conférence CAESA. Donc, le conférencier, c'est Monsieur Sébastien Sasseville, un conférencier en entreprise. Et Jean-François, tu nous disais tantôt que tu as vu, toi, la conférence. C'est Inspiration, ça?
Oui. En fait, c'est ce que je te disais aussi, c'est que honnêtement, je peux pas dire que je suis un grand amateur de conférences uniquement parce que j'ai pas le temps en fait puis malheureusement c'est un peu plate là mais j'en fais des conférences et des formations et j'ai pas tout le temps d'en suivre non plus et j'ai suivi dans le cadre du mon application dans le forum jeunesse j'ai suivi cette conférence là l'année dernière et honnêtement là c'est quelque chose de absolument incroyable à voir là. En fait pour faire très rapide Sébastien Sasseville c'est quelqu'un qui a eu des défis physiques importants comme monter l'Himalaya, grimper l'Everest,
traverser le Sahara.
Voilà, traverser le Sahara. Et à travers ces expériences-là, il parle justement de motivation, il parle de l'effort, et c'est vraiment il fait pas de raccourcis à travers les développements humains ou des fois comme on peut entendre dans les conférences c'est vraiment il parle de son expérience puis il explique finalement que il y a du travail et c'est tu n'atteins pas les sommets en faisant juste regarder en haut. Là. Il y a même une expérience à un moment donné dont il parle qui est super intéressante, là, sans dévoiler le point de sa conférence, là, mais qui, dans laquelle il parle justement de la montée de l'Everest, qui tout le monde pense que tu prends tes chaussures, tu montes, puis c'est fait. Là. C'est que ça se fait par palier.
Ouais.
Dans laquelle tu montes le palier 1, tu restes là, tu redescends en bas,
tu
remontes, ouais. tu redescends. Finalement, tu fais 15 fois le mont Everest. Quoi. Donc, puis c'est quelqu'un de très sympathique. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est demain matin.
Ouais, c'est ça, c'est demain matin.
Demain et dans d'autres journées, honnêtement, s'il y a une conférence à aller voir, là, je vous conseille fortement d'aller voir celle de Sébastien, là, qui est très très pertinente. C'est quelqu'un de très simple. Il n'y a pas de fla-fla autour de ça. Là.
Une petite phrase qui a tenu mon attention dans sa description, c'est qu'il parle plutôt que de discuter d'adaptation au changement. Sébastien Sasseville propose le concept d'agilité corporative.
Oui, oui, exactement. Ben, il utilise ça. Puis tu sais que moi, tous les matins, devant mon écran, parce que lors de ses conférences, je ne sais pas s'il le fait encore, là, mais il délivre des petites cartes avec des réflexions,
phrases,
c'est
okay.
ça. Et j'ai ça devant mon écran là depuis cette conférence-là. Puis honnêtement, je suis pas ce genre-là d'habitude à regarder les petites citations, les phrases, les machins. Là,
c'est quoi la citation?
Ça, je pourrais même pas te la dire. Je l'ai lu tout le matin, puis tu vois, je la reconnais. Écoute, j'ai aucune mémoire. Mais il reste que c'est des phrases qui sont très pertinentes. Enfin, je crois.
Faut juste que tu t'en souviennes.
mon cerveau s'en souvient.
Ah, c'est bien. Donc, pour ceux que ça intéresse, je sais que c'est demain matin. Je sais pas si c'est trop tard pour s'inscrire. Mais sinon, le coût de l'activité pour les membres, c'est 28$. Les non-membres, 43$. Et c'est donc demain matin, mercredi 14 décembre, de 7h15 à 9h15, au complexe Deux Glaces Oncourt sur l'avenue de Taniata à Lévis, secteur Saint-Romuald. Donc, je termine le bloc entrepreneurial en parlant du prochain événement de Tremplin Réseau qui aura lieu ce jeudi matin, le 15 décembre, de 8h30 à 11h30 au CFP Gabriel Rousseau, situé au 1155 boulevard Guillaume-Couture, encore une fois Saint-Romuald, vers la tête des ponts. À la conférence, ce sera notre invité de la semaine dernière, M. Francis Poirier, fondateur de Réseau Hockey, qui viendra donner sa première conférence. Donc, la semaine dernière, la radio. Cette semaine, la conférence. Donc,
ouais, Francis, l'année prochaine, je pense qu'il va être...
Il va faire le tour des écoles.
Ouais, j'allais dire Roger Leno Show, mais il n'existe plus.
On verra bien. Pour ce jeudi matin, moi, j'y serai présent. Toi aussi, Jean-François, tu y seras.
Oui, je vais même animer la rencontre.
Oh, c'est toi qui anime la
partie. C'est moi qui anime au complet. Tout.
Au complet, oh.
J'anime tout.
OK, j'ai hâte de voir ça.
Du début à la fin.
Ça va être drôle.
Il a encore le temps de s'inscrire au passage. Hein?
Ben oui, c'est ça que j'allais dire. On va partager le lien de Eventbrite. C'est 5$ pour les membres, 15$ pour les non-membres. Sachez que pour devenir membre de Tremplin Réseau, ça coûte, je crois, 15$ par année. Pour 2 ans. Par année. Les informations seront véhiculées lors de cet avant-midi-là. Donc, un tremplin vers son marché, le 15 décembre à 8h30. Inscrivez-vous via le lien Eventbrite qui sera partagé dans un instant. D'ailleurs, parlant de Facebook, c'est le meilleur moyen pour nous rejoindre. Vous avez des questions, des interventions, vous avez quelque chose à dire ou que vous voulez qu'on dise, une annonce ou whatever, ben Jean-François est aux commandes de la page Facebook en tout temps. Donc, c'est la meilleure façon. Cherchez les technopreneurs dans l'engin de recherche de Facebook et vous nous trouverez assez facilement. J'en profite aussi pour vous inviter à joindre la page Facebook de CJMD. Donc aussi, oui. Cherchez CJMD 96.9. D'ailleurs, depuis juillet, on a presque doublé le nombre
oui.
de d'abonnés sur la page. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. L'an prochain, on va avoir une campagne de financement pour la nouvelle antenne qui va s'en venir. J'ai entendu des abeilles gazouiller, un peu pas gazouiller, mais des petites bis d'abeilles. On parle peut-être de la ruche comme ce sous financement. Mmh. Donc, surveillez ça. Des beaux packages intéressants pour les particuliers et surtout pour les entreprises. Une belle façon de s'afficher.
Oui, oui.
Surtout pour les entreprises en démarrage. Je dirais qu'il y a un beau forfait, là. On a pensé à eux parce que c'est pas toujours en démarrage qu'on a les budgets pour
ouais, puis ça vaut la peine de commencer par quelque part.
Mais pour commencer à s'annoncer à la radio Lévis, c'est une bonne façon parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'à des réseaux commerciaux. On est une radio communautaire, donc on a d'autres, on a des subventions, donc on a au moins un côté, on est moins l'argent un peu. On a besoin d'argent toujours quand même. Donc, on va passer au bloc entrepreneurial. Qu'est-ce que Jean-François nous a préparé de bon?
Tu veux dire au bloc technologique?
Que j'ai dit, entrepreneurial. Ouais. C'est ça quand on regarde 2-3 écrans.
Non.
Au bloc technologique.
Puis là, j'ai pas ma petite musique, là?
Mais attends un petit peu, j'en ai trouvé une autre.
J'ai pas ma petite musique.
Tu n'auras pas la même petite musique que d'habitude.
Ah ben là,
je fais un test, là, tu vas voir.
Vas-y.
Est-ce que ça marche? Non, on n'entend rien. Hein? Oh, j'aurais aimé ça que ça marche. Peut-être c'est ça, faut que je fasse. Ouais, c'est quelque chose.
Expérimentation en direct.
Expérimentation, ouais. Il y a les petites cartouches, un cartoucheur qu'on peut lancer comme des sons.
Lance le cartoucheur.
Puis ça marche pas. Fait que je vais demander à mes collègues, ouais. C'était genre le son de Windows 95 qui ouvre.
Ah, c'est
la petite musique.
Ding,
ding. Donc, à toi, JF.
Bon, OK. Bon, on va faire ça. On va faire ça vraiment en rafale. Actualité, bien sûr, de technologie. Qui touche autant l'aspect matériel que les différents secteurs d'activité confondus. Donc, ce que je fais finalement, c'est que je lis un petit peu tout le temps sur le domaine technologie et j'essaye de vous retrouver les éléments principaux qui ont retenu mon attention. La première, si on continue toujours la bataille dont on parle depuis deux mois entre Microsoft et Apple, bien effectivement, ça s'en vient pas mal du bord de Microsoft avec la Surface qui bat des records de vente. Pas forcément parce qu'ils sont bons, mais ça, j'aime bien toujours le côté jugement des blogueurs. Là. On n'accepte toujours pas que le Surface soit bon. On dit qu'il bat des records parce que le MacBook Pro est moins bon. C'est pas pareil.
N'importe quoi.
Donc apparemment que le vent est en train de tourner là pour Microsoft par rapport à Apple. Apple a vécu dernièrement des problèmes au niveau de son MacBook Pro avec la carte graphique, avec les performances graphiques, avec les performances, en tout cas pas mal de bugs. Et pendant ce temps-là, le Surface lui commence à vivre des jours heureux et de se vendre pas mal. Donc c'est un peu l'actualité là, qui a été faite par rapport à ça dans le blog branchezvous.com. C'est en effet, donc si je lis rapidement, le succès de la gamme Surface est en partie provoqué par des propriétaires de Mac ayant abandonné l'écosystème d'Apple, ce qui va pas très bien. C'est en effet ce qu'a affirmé ce matin le géant du logiciel en annonçant que le novembre a été le meilleur mois en termes de vente aux consommateurs de l'histoire de la Surface. Ce qui n'est pas non plus depuis 25 ans non plus, mais en tout cas, c'était quand même assez bon. Donc c'est à suivre. Je pense qu'on s'en va avec une gamme de Surface, le Pro, le Book, le Surface Studio, et on parle même d'un Surface Hub.
Hub.
Ouais, qui à mon avis, là, il explique pas qu'est-ce qu'il va être, mais à mon avis, le Surface Hub va ressembler pas mal à un Chromebook, parce que Hub, c'est le côté plus navigation, collaboration, ouais. Je sais pas à quoi ça va ressembler.
Parce qu'à date, le Surface, c'est quand même de quoi d'assez dispendieux.
Ouais.
C'est comme un ordinateur, mais.
Un ordi. Ouais, voilà, exactement.
Un ordiblette.
Ouais, sauf que là, il y a une gamme du Surface comme ça, mais après ça, tu vas avoir les gammes Surface Pro, Surface Book. En gros, le Surface là, va devenir l'ordinateur de Microsoft. On appellera plus ça un PC, on va appeler ça un Surface.
Okay,
ça va régler les choses. Là. Puis, en tant que tel, c'est ce qui va devenir le standard chez eux, finalement.
Crois-tu que Windows pourrait arrêter d'être développé pour PC, mais uniquement disponible avec Surface? Non, ça disparaîtra pas.
Ben, ils commencent à créer des systèmes d'exploitation uniquement pour Surface, là, donc comme le Surface Studio justement, là, qui va être disponible uniquement sur cette plateforme-là, qui va intégrer des solutions 3D, puis bref, tout un tas de choses. Donc, ce qui est drôle en fait, je parlais de ça avec un client l'autre jour là, c'est que tout le monde a critiqué Steve Jobs pendant des années sur son côté radical de je veux pas parler aux autres, je veux que mon produit soit unique, je veux que les gens doivent absolument avoir du Apple pour manger du Apple, tu sais. Et tout le monde critiquait ça, Microsoft les premiers en disant « Oui, mais il faut démocratiser l'informatique, il faut rendre ça accessible, il faut rendre ça ci, il faut rendre ça ça. » Et quand tu regardes aujourd'hui comment se comportent les compagnies comme Samsung, comme Facebook, comme Microsoft, comme toutes ces compagnies-là finalement, ils adoptent exactement le même modèle que Steve Jobs a fait il y a 25-30 ans. C'est-à-dire un modèle dans lequel c'est exclusif à... Puis que si t'as pas le truc qui va avec, tant pis pour toi. Quoi.
Okay.
Donc, je trouve ça drôle parce qu'en fait, tout le monde a critiqué ça et puis pourtant, tout le monde le fait. Donc, voilà.
Ils se sont rendus compte que ça avait pas d'allure ou... Je sais pas.
Deuxième info qui a retenu mon attention parce qu'elle se passe particulièrement au Québec et je pense que c'est une fierté québécoise qu'il faut mettre de l'avant. La compagnie Druid. Connais-tu la compagnie Druid?
Druid.
Comme les druides.
Comme le druide dans Alex.
Panoramix.
Non, Astérix. Ouais, c'est Panoramix.
Et ben, c'est pas lui. Bon. C'est ce que c'est, Nienne. C'est pareil. Okay. Donc, Druid.
Une compagnie d'ici, donc, Druid.
Non.
Non.
Druid, en fait, c'était une compagnie de développement, en fait. Développement informatique. C'est eux qui sont à la tête de Antidote.
Ah, OK.
Donc, en fait, c'est eux qui ont créé Antidote. Et donc, ils ont annoncé la création d'un fonds pour la recherche sur la reconnaissance linguistique, puis même l'intelligence artificielle, qu'ils ont alloué au laboratoire MILA de l'Université de Montréal. En fait, c'est les fondateurs de Druid ont étudié là. Donc, ils redonnent finalement à...
Ils redonnent ce qu'ils
voilà, où est-ce qu'ils ont... Et ça vient quelques semaines après l'annonce que Google a faite d'investir des millions de dollars aussi à l'Institut des algorithmes de Montréal, Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal. Oui, donc
l'investissement de Google.
Oui, exactement.
J'en parlais justement quand t'étais pas là, il y a 2-3 semaines. J'ai parlé un peu de cet investissement.
Donc, ben, tu sais,
c'est en lien.
Voilà.
Oui, voilà.
C'est en lien parce qu'en fait, Druid, en fait, l'application, même le logiciel Antidote, faut savoir premièrement que c'est le premier logiciel de traduction et de rédaction en francophone au monde.
Au monde, ok.
Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et c'est un logiciel qui a 20 ans. J'ai regardé ça ce matin.
Ça fait assez longtemps. Moi, il me semble que j'ai toujours connu Antidote. Là, ça fait 20 ans que je fais de l'informatique. Donc, il me semble que Antidote a toujours été là.
Donc, tu sais, c'est une belle évolution. C'est un beau logiciel. Honnêtement, à l'époque là où on était dans les copies de logiciels.
Dans le temps, là.
Dans le temps où on copiait des logiciels. Je pense que c'est le premier logiciel que j'ai acheté, moi. C'est le premier logiciel que j'ai vraiment payé en disant ça vaut le coup. Parce que c'est, parce que ça vient d'ici. Puis parce que c'est un logiciel propre. Tu sais, il y a pas de mauvaises intentions derrière
ça. C'est d'améliorer.
L'intention, c'est d'améliorer.
D'améliorer ton
et ton ça orthographe. Marche. Honnêtement, c'est un logiciel qui est extrêmement bien fait.
Non, oui, c'est hallucinant.
Et pour le prix que ça coûte maintenant, je pense que ça tourne autour de 70$, là.
Non, c'est ridicule.
Pour le prix que ça coûte maintenant, là, écoute, soit c'est ça, soit tu fais des fautes, là.
Ouais.
Donc, ça vaut la peine. Et donc, ils ont investi 3,5 millions de dollars, quand même, là. Donc, à suivre. Je trouve ça intéressant que les compagnies de nouvelles technologies redonne au suivant, dans le sens où ce sont les universités puis les écoles qui les ont amenés à ce niveau-là. Donc c'est normal qu'ils redonnent. Google, ouais. Bon, chaque année redonne des millions et des millions tout le temps en scène, mais que des compagnies comme ça soient en mesure de pouvoir le refournir, là, je trouve ça assez sympa.
On parle beaucoup d'ailleurs, les géants le font, comme tu dis. C'est le fun qu'ici aussi, cette pensée-là soit reproduite.
Exactement.
Donc c'est bien.
Connais-tu le greenery?
Le quoi, le greenery?
Le greenery.
Non.
You didn't know the greenery?
Non. Qu'est-ce que c'est, là?
Tu demanderas à Sarah, elle connaît le greenery, là.
Ah, bon.
La couleur de l'année 2017. Comme tu sais, chaque année, la compagnie, l'organisation Pantone, qui établit les couleurs Pantone.
Les couleurs Pantone. Pantone.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, vous irez voir ce que c'est sur Google, trop long expliqué.
P-A-N-T-O-N-E.
P-A-N-T-O-N-E. Donc, chaque année, c'est un peu comme des stylistes, là, ils vont donner la tendance.
La tendance, ouais.
C'est une tendance que souvent les web designers, les gens comme toi et moi, on n'est pas web designer, mais en tout cas, les gens qui travaillent dans le domaine du web,
les graphistes,
suivons parce que ça fait partie de l'évolution du web et de ça. Cette année, la couleur de l'année 2017 sera vert greenery.
Greenery.
Voilà, c'est le nom du vert. Donc, après le Bordeaux Marsala et le duo rose quartz et bleu, Serenity. C'était celle de cette année, au passage, si je ne savais pas.
Moi, je me souviens d'un bleu royal il y a quelques années, là. Mais
non, oui, c'est vrai, ouais, je m'en rappelle.
Mais il me semble que quand j'ai parti en affaires, c'était ça, le bleu royal.
Là, cette année, donc, c'est le couleur qui est un peu vert pomme.
Okay.
Donc, qui sera à l'honneur. Donc, si vous êtes cette année en train de refaire votre site web ou en train de redorer votre image, bah, ayez une tendance qui tire vers le vert, ça sera bien pour vous.
Un beau petit vert fluo, là.
Un beau petit vert pomme fluo, là, ça lui fait un petit peu...
Ah non, je sais, j'exagère. Le vert pomme me fait penser à ça. C'est comme dans Excel ou dans Word, quand tu choisis pour surligner en vert.
Ouais.
Tu le manques pas.
Dernier petit point, parce que j'en avais d'autres là, mais je pense qu'on va manquer de temps. Dernier, parce que tu étais parti à toi aussi.
Ah oui, oui, puis on va faire une petite
bon,
pub.
Je me dépêche, je me dépêche.
Je suis en format 2 heures à soir, j'essaye ça. On continue. T'as encore une minute.
Donc, non, autre petit point, je suis tombé sur un blog, un article de blog super intéressant. Ça s'appelle le guide complet pour se lancer sur Facebook Live.
Ok.
C'est malade.
Et pas faire comme moi, là, d'essayer puis de se rendre compte que, hop, t'es pas sur le live pantoute. Puis...
Exactement. Donc, c'est un dossier qui fait à peu près, je pense, c'est...
50 de pages.
7 articles.
7 articles, ok.
7 articles complets sur qu'est-ce que Facebook peut vous apporter, comment optimiser ses vidéos pour le marketing web, les 5 idées de contenu, pas juste rester planté devant votre téléphone puis rien dire, le donner de la vie à votre live, les outils indispensables, monétiser vos vidéos Facebook Live. Oh. Monétiser. Donc, voilà, je vous partage ça sur la page Facebook. Super intéressant. Pi
3.1416. Ça fait longtemps que tu l'avais entendu.
Ouais,
Ça te manquait pas.
Je vais tester le guide. Donc, moi, sur ma page Facebook, puis je le repartagerai sur la page de Technopreneur. Je vais le tester. Je vais faire exactement ce qu'il dit. Puis on va voir si ça va en donner.
On va voir ce que ça va donner.
Un résultat pertinent.
Tu vas le faire pour toi, pour ton.
On pourrait le faire pour les technopreneurs.
Ou pour les technopreneurs. Oh, oui. OK, on l'essaiera.
Donc, on l'essaiera. Je vais suivre le guide. Puis on verra ce que ça donne.
Il y a quelques émissions aussi qui font, je pense à Nathalie Jean, qui font un Facebook Live durant l'émission.
Ouais, bah ça, on va en reparler en hors d'onde, mais
ouais, c'est un projet.
Il va falloir qu'en janvier, là, ça se vidéise.
Vidéise, moi, ça. Okay. Il va falloir que le techno soit plus fort que le preneur.
Non, pas forcément, mais que les vidéos, en tout cas, le soient.
Bon, c'est correct. On va se faire une petite pause de 5-6 minutes. J'ai la bouche sèche. Je vais aller me chercher quelque chose à boire. Donc, on va se mettre une petite tonne de Soundgarden avec 2 petits blocs pubs. On revient dans 6 minutes. À ton tour.
My youth. Bonjour, ici Stephen Blaney, député de Lévis-Bellechasse, les Aides-Chemins. J'aimerais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. C'est un privilège d'être à votre service et je vous remercie pour votre confiance. Joyeux Noël et bonne année.
CJMD 96.9.
Et nous sommes de retour dans l'émission Les Technopreneurs. Donc, après une petite pause musicale de Soundgarden, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu
ça. Ça fait du bien, ça.
Toujours fait du bien. Moi, je me souviens d'avoir vu Soundgarden en 1994 au Lollapalooza à Québec. Mais le groupe allait se séparer. Ils respectaient leur engagement, mais le groupe était pas du tout aucune symbiose. Même le guitariste pitchait ses guitares avant que le technicien arrive. C'était une des pires prestations que j'ai vues en termes de spectacle musical.
C'est triste quand c'est rendu ça. Là.
C'est ça, le band est là, il joue juste parce qu'il y a un contrat, parce que sinon ça va être trop cher de briser le contrat, fait qu'il joue, mais t'sais, en tant que fan, moi j'ai eu aucun plaisir. Je trippais sur Soundgarden dans ce temps-là, j'ai aucun plaisir à les voir. Là.
Ben non, parce qu'en fait tu détruis en plus ton image, l'image que t'as d'eux.
C'est ça, fait que là on était comme, ouais, tant qu'à voir Soundgarden, pour tous se mettre pas les voir. Hey, ça fait un petit pont avec le contenu musical là, que j'ai à vous présenter. La semaine dernière, je vous parlais de EV Montréal. Ouais. Ben, ça a été confirmé dès le lendemain de l'émission. EV Montréal va faire relâche en 2017 pour revenir plus fort que jamais au mois de juillet 2018. Donc le 28 et 29 juillet 2018. Normalement, c'était plus début août. Là, ça va être fin juillet. Ça va être au parc Jean-Drapeau. Et puis le 27 juillet 2018 avec EV en ville. Je pense qu'il y a quelques bars dans la ville de Montréal qui reçoivent le EV Montréal. Et je vais vous lire le petit communiqué de presse très brièvement de Nick Farkas, vice-président concert et événement d'Evenco et fondateur du EV Montréal. Il mentionne que lors des 8 éditions précédentes de EV Montréal, nous avons toujours mis l'accent sur la qualité de l'expérience en ayant comme objectif d'offrir aux amateurs de métal et de rock un festival de grande envergure. Plusieurs facteurs, dont les travaux au parc Jean-Drapeau et la multiplication de l'offre durant la 375e année de Montréal, sont entrés en ligne de compte dans notre décision. Nous croyons vraiment que faire relâche en 2017 pour revenir en force en 2018 nous permettra non seulement d'assurer la pérennité du festival, mais aussi d'offrir aux festivaliers une édition dont ils seront fiers. Donc, au début, j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y aurait pas d'EV Montréal, mais quand on voit la raison, c'est vrai que cette année, Montréal fête leur 375e. Leur 175e.
En tout cas,
375e,
on va-tu le savoir que c'est le 375e?
On le sait déjà avec dimanche soir. Hein,
mais
c'est ça?
Écoute, c'est neuf.
Ça. Ma blonde a fait « Hey, check! TVA, TQS... » non, plus TQS, mais VTV.
T'es encore TQS.
TVA, TQS, Télé-Québec, Radio-Canada. Bref, c'était quatre. Les quatre...
La télé est tellement vieille que j'ai encore TQS.
Télévision, quatre saisons.
Mais moi, ça, les quatre mais points, c'était je Montréal. Comprends pas ça. Et écoute, en plus, je sais plus qui a fait le commentaire l'autre jour, mais... C'est 375, ils vont-tu faire ça chaque année?
Non, c'est ça. Pourquoi fêter un 375e? Tu sais, le 400e de Québec, c'est normal, c'est 400. Puis encore là,
est-ce que Coderre, il était pas sûr d'être élu dans 400e?
Ou d'être en
vie. Je vais le faire maintenant, je vais faire mon labo.
Mais est-ce que ça, ça a pas été fait pour le 400e de Québec, là, d'avoir 4
ans? Je peux pas te dire, j'étais pas ici. J'allais dire, j'étais pas né. Si j'étais né, mais j'étais pas ici.
Ben oui, au 400e de Québec.
C'est non, mais le 375.
Non, au 375. Non, mais au 400e de Québec, en 2008, il n'y a pas eu un événement à la télé.
Non, pas la télé.
Non, c'est ça, il y a eu
mais
plusieurs événements.
Mais il y a eu quand même...
Mais tu sais, c'était pas comme Planète Montréal.
C'est ça.
Tu sais, c'est ça. Parce qu'en même temps, VTL, Radio-Canada ont tous leur siège social à Montréal, tous dans le même coin. En plus, ça devait être condensé un peu. Donc, ça, c'est l'année prochaine. Là,
c'est 2017, finalement.
C'est 2017, mais là, vendredi, dimanche soir, aucune autre émission disponible. Ça tombe bien, j'en écoute pas.
De toute façon, c'est Guy Lepage qui produit tout ça quasiment là, au complet.
Non, mais là, c'est Éric Salvaille, là, le spectacle qui a été diffusé le dimanche passé. C'est Éric Salvaille qui produisait le spectacle.
Mais parce que lui, il est dans l'organisation aussi, Guy Lepage, si j'ai bien compris. Là, dans l'organisation principale de tous les spectacles et tout ça. Là, c'est ce qu'il disait l'autre jour.
Oui, je sais que pour la fête nationale, oui, mais pour ça aussi.
Non, ça
se peut.
Mais de toute façon, regarde. Un ou l'autre, là, honnêtement.
Non, tout à fait. pour revenir à la musique, on ne parlera pas de Montréal trop longtemps. Je vais faire un petit parallèle avec ce que j'ai parlé aussi encore la semaine passée. Je parlais de, justement, Guns N' Roses qui s'en venait à Montréal avec leur tournée Not In This Lifetime. Donc, combien de billets crois-tu que Guns N' Roses ont vendu en 24 heures la semaine dernière? On parle du Canada, de l'Europe et du Royaume-Uni. En ben, moins de 24 heures.
Dans tous leurs shows, là?
Ouais, pour la tournée au complet, pour ces trois.
375 000.
On a vendu plus d'un million d'albums en 24 heures. Donc, si on rajoute à la tournée a commencé un peu plus tôt cette année. Donc, ça va être la tournée dans toute l'année qui a obtenu le plus de succès avec plus de 3 millions de billets vendus. Donc, semblerait qu'il faut aller voir Guns N' Roses. Alors, je parlais des prix faramineux la semaine dernière, là. Ben là, j'ai vu, il y en a un petit peu moins cher. On peut avoir un billet pour 125$.
Imagine, le minimum, c'est 125.
Ouais, 125.
Ils en ont vendu combien?
Ben là, 1 million en moins de 24 heures dans Canada, Europe, Royaume-Uni.
Donc, ils ont fait minimum 100 millions en une journée.
Genre. Tu mets ça au prix plus bas, là.
100 millions en une journée.
Mais t'as des billets aussi à 400$ dans le pit en avant. Ouais. Hein, c'est ridicule. Présentement, c'est les billets qui sont le plus vendus. J'ai checké tantôt sur Evenco. On peut encore avoir des billets à 125$, à 200$. Ouais. Mais les billets en avant, oublie ça. Je parlais de ça avec un ami. On dit, oh, on va-tu voir Guns N' Roses? C'est quand même Slash, Duff, La Réunion. Ouais, mais là, Parc Jean-Drapeau, dans Gadou, dans le fond, à 125. On parlait plutôt peut-être de regarder pour Ottawa. Ils font ça, un nouveau stadium, TD Stadium.
OK.
Au moins, ça va être dans un stade, ça va être à l'extérieur, mais au moins, ils vont avoir des...
ça va être structuré.
Ils vont avoir au moins des gradins, parce qu'on va pouvoir aller s'asseoir. On s'en vient vieux un peu, aller debout dans un spectacle de musique. Vous l'avez vu Montréal, il y a 2 ans, je l'ai fait, là, toute la fin de semaine, puis je marchais plus. Le lundi, là, j'avais les jambes en feu. Les pieds, j'ai les pieds plats en plus.
T'es tout rouge. T'es revenu tout rouge.
En plus, oui, une fin de semaine qui avait
C'était fait drôle, cette fin de semaine. Moi, je t'ai vu partir.
On s'est vu le vendredi, juste avant.
On s'était rencontrés juste avant. Je t'ai vu partir. Quand je t'ai vu revenir, mais t'es passé où, dans un four?
Ouais. Exactement. C'est les dangers des festivals à l'extérieur. Donc, le Heavy Montréal, je m'étais dit, d'ailleurs, à part s'il y a des groupes comme Tool ou des groupes que je veux vraiment voir, là, je vais passer mon tour. Je commence à avoir moins la santé physique. Ou sinon, ben, il y a des estrades, mais ça coûte 2 fois plus cher être dans les estrades.
Ah, ouais.
Les estrades en métal au gros soleil.
Tu cuis plus.
C'est pas juste la face rouge, là, t'en ressors de là avec les cuisses rouges. Ouais, donc plus d'un million d'albums vendus, pas un million d'albums, mais de billets en 24 heures, ça m'a plutôt impressionné comme statistique. Donc, je sais pas encore si je vais aller les voir. Là. Je les ai vus sur les plans l'autre année. C'est sûr qu'il y avait pas Slash puis Duff, mais bon, je sais pas. Là, c'est à voir. Sinon, j'ai fait un léger survol de ce qui se passe en terre lévisienne. C'est plutôt tranquille. À l'approche des fêtes, il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt cette semaine. Il n'y a rien pour la semaine prochaine, mais cette semaine, vendredi, le 16 décembre, à 21h, au bar spectacle Le Cluster, il y a un show de hardcore. Donc ça, c'est encore plus méchant que du métal, je trouve. Le hardcore, c'est vraiment la grosse musique... parce que d'habitude, les noms des groupes là-dedans, c'est plutôt amusant. Je vais vous dire c'est qui fait le show de ce vendredi. Donc, c'est Wasteland Hardcore, Public Outsider Punkcore. L'autre groupe, c'est We Throw Flowers Experimental Hardcore. Et le dernier groupe, c'est le Super Smashed Sisters Hardcore.
Oh, là.
Donc, une soirée, ça finissait en disant, venez faire le party avec nous autres. Donc, pour 10$, au Cluster ce vendredi, si vous avez envie de vous défouler, c'est la place à être. Sinon, si vous voulez être un peu plus tranquille, du côté de l'Anglicane, c'est pas de la musique, mais c'est une pièce de théâtre, Sherlock Holmes et le chien des Baskerville. Donc, c'est mentionné comme un théâtre advienne que pourra, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, 39$ ou 20$ étudiant ce vendredi. Sinon, en musique, ce samedi à l'Anglicane, un petit peu de funk et de jazz avec Busty and the Bass à 20h pour 30$ ou bien 24$ un prix étudiant. Donc, c'est pas mal ce qui se passait au nouveau spectacle à Lévis. Le vieux bureau de poste était tranquille jusqu'en janvier. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va se concentrer sur d'autres choses. On regardera les actualités, peut-être les albums à venir pour 2017 ou quelque chose du genre. On verra bien. Donc, on va arriver dans la dernière portion de notre émission, où on aime bien faire un petit quiz ou un petit peu d'animation. D'ailleurs, pour 2017, Jean-François me confiait tantôt préparer quelque chose pour cette portion.
Oui.
J'ai bien hâte de voir. Il y a un sourire machiavélique. Mais pour aujourd'hui, je regardais encore avec notre super référence du journal du net. Il y avait différents questionnaires là. Fait que j'en ai pris un, justement, qui ramenait un peu nos deux univers à moi et Jean-François. Le titre du questionnaire, c'est « Que connaissez-vous de la musique numérique ?» Donc, le numérique, c'est toi, la musique, c'est moi. Oh, oh, oh. Donc, c'est un petit 10 questions. Moi, je sais un peu les réponses. On va voir si j'en prends ça.
Je sais un peu les réponses. C'est normal de faire le questionnaire.
Je sais.
Moi, je connais les réponses, vous savez.
C'est sûr que tu vas connaître les réponses aussi. On va y aller comme ça voir. Quel est le nom du format de fichier numérique le plus répandu sur Internet? Hey, ça vaut-tu la peine que je te donne un choix?
Le MP3.
Et voilà. Dans les choix, il y avait aussi le Wave et le WMA. C'est quoi cette WMA?
WMA, c'est le Windows Media Player.
Media format Audio. Il n'y a personne qui...
Ben, ça existe encore, en fait.
Ouais,
ouais.
Windows Media Player, j'écoute des MP3.
C'est quand on compresse avec du Windows Media Player. Okay. Il y a le AIFF aussi, qui vient des iTunes. Là.
Oui, OK.
C'est le format de Apple.
OK.
Qui est pas mal répandu. Puis maintenant, beaucoup le MP4, qui fait autant vidéo que audio. Là.
D'ailleurs, il y a une question sur le MP4 un peu loin. Bon. On va voir. La deuxième question, c'est à quoi sert un égaliseur sur un baladeur? A, proposer une qualité sonore minimale pour chaque morceau. Ou bien B, à harmoniser le volume sonore entre toutes les musiques. Ou bien C, à modifier le volume de certaines plages de fréquence.
Qu'est-ce que tu entends par baladeur? Est-ce que baladeur, c'est le Walkman?
Je pense
que
c'est un lecteur de musique.
Okay.
Il y a toujours un égaliseur sur Winamp
ou un
baladeur. Je pense.
Moi, je pense que c'est pour égaliser le son entre les chansons.
Ouais, ben moi aussi, c'est ce que j'aurais eu tendance à répondre. Mais la bonne réponse, c'est pour modifier le volume de certaines plages de fréquence.
Ah ouais. Ben c'est ça. Ben ça vient.
Non,
chose,
parce qu'il y avait la qualité sonore minimale pour chaque morceau.
Ah.
C'est subtil. Je pense qu'il faudrait avoir quelqu'un du son
qui pourrait
vraiment plus nous l'expliquer. Sinon, est-ce que tu connais le format AAC?
Ouais.
On a déjà vu ça. C'est Advanced Audio Coding. Qui a popularisé ça, d'après toi? Apple, Winamp ou Microsoft?
Le AAC, j'irais avec Microsoft.
J'avais répondu Winamp quand j'ai répondu au test, mais c'est Apple qui ont le AAC. Mais je sais pas dans quel cadre c'est
employé. Ça me dit quoi, par contre? Je pense que c'était avec les logiciels de montage vidéo et tout ça, les Final Cut Pro.
Okay.
Parce que quand je faisais
que c'est du advanced, donc c'est du codage audio avancé, donc j'imagine que ça doit être dans certaines spécificités là, que c'est employé. Et non pas monsieur, madame, tout le monde.
Ouais, tu vois, en fait, ça devait être l'équivalent du MP3, j'imagine. Ils ont dû faire leur propre MP3, là, puis
peut-être.
Ils ont dû se planter avec ça. Là.
Peut-être. Ou peut-être que ça sert dans le cadre de cinématographique.
Tu vois, c'est le format par défaut de YouTube, iPhone, iPod, iPad, Nintendo DS, PlayStation.
C'est plus utilisé qu'on le pense. Hein. Mm. Bon, et voilà. Prochaine question, que signifie des enceintes 2.1 pour un ordinateur? Donc, est-ce que c'est deux caisses satellites avec un caisson de base, ou seulement deux satellites, ou quatre satellites et un caisson de base?
Deux, un.
Ouais, c'est ça, le 2.1. Ouais, le 2, c'est les caisses, le
c'est
point 1.
C'est comme le Dolby 5.1.
C'est ça, le point 1, dans le fond, c'est le sub-ouvre.
C'est le sub, ouais.
Ouais. Bon, moi, c'est ce que j'avais répondu. Un casque intra. Tu sais quoi, toi, un casque intra? Moi, je connais pas ça.
Intramuros?
Un casque intra, ça sert à A. Se ranger plus facilement dans une poche. B. Isoler des bruits extérieurs en bouchant le canal auditif. Ou C. Envoyer des infrasons à l'oreille.
Non, sinon ça s'appellerait le casque infra. Donc les deux, la B.
Ouais, isoler les bruits extérieurs en bouchant. Donc c'est un peu ce qu'on a sur les oreilles.
Ouais. Un casque finalement. C'est un casque. C'est le vrai nom du casque.
Fait que qu'est-ce qui est intra là-dedans? C'est le canal auditif.
Okay, intra-oreillis.
OK. C'est bon. Que signifie la valeur en kbits, en kilobits associée au format de fichier? À indiquer le volume d'espace libre qu'occupe le fichier sur le disque dur. Abattre la mesure plus ou moins vite dans un morceau ou à indiquer le taux de compression du format de fichier utilisé.
Ben, c'est le poids.
C'est ça, c'est, ben, le poids. Non, il n'y a pas de poids là-dedans.
Ben, c'est le premier, la taille
du fichier.
Le
volume de l'espace disque, ben non, des kilobits, c'est le taux de compression du format.
Ah, tu vois.
Donc, on dit qu'un CD, mais je pensais que tu avais connu ça.
Non. J'ai pas connu les CD, moi.
Non, mais les MP3.
Je
tu sais, en 128, en 256.
Non, j'ai jamais fait attention à ça.
Comme là, quand on est diffusé sur Internet, on est en...
Ah oui,
c'est du 384.
Non, tu vois, Internet, c'est du 56, ça, c'est ma culture sonore qui s'arrête là.
Ah bon, ben, c'est bien. C'est peut-être la mienne qui commence, là. Donc, tu dois sûrement pas connaître l'acronyme FLAC, F-L-A-C en majuscule.
FLAC?
As-tu déjà entendu ça?
Non, ben, j'ai déjà vu.
Format FLAC, c'est un peu l'output des consoles de mixage.
Okay.
C'est le format FLAC.
Ah,
donc,
ouais.
C'est le format qui est pas compressé. C'est le son le plus pur. J'ai déjà entendu un album de Metallica, le Black Album, en FLAC. Sur Nothing Else Matters, t'entends des harmonies que t'entends pas d'habitude.
Okay.
C'est tellement le son, là, t'as tout. Quand on le compresse en MP3, ben, on compresse des niveaux sonores.
Donc, quand ça sort des prises XLR, là?
Ouais, un peu en quelque sorte. Quand ça sort du XLR pour aller dans
Directement. Dans
l'autre, c'est un format FLAC. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? FLAC pour Free Lossless Audio Codec, ou bien Free Large Audio Codec, ou bien Free Lossless Audio Compressor. En tout cas, le F veut dire free. Hein?
Free, le deuxième, là.
Le deuxième, Free Large Audio Codec. Et non, c'est Free Lossless Audio Codec. Donc, j'imagine pour dire qu'il n'y a aucune perte. Ah. Hein, c'est ça. Donc, on revient vers un peu vers la radio. À quoi sert un tuner FM?
Ben, tuner.
À capter les ondes radio.
Tuner.
Ça vaut même pas la peine que je lise les choix à tuner. Les choix, c'était à communiquer entre utilisateurs de baladeurs.
De baladeurs.
À capter les ondes radio ou à se connecter sur Internet.
Ouais.
Ah ouais, sur Internet avec un tuner FM. Là, j'ai,
oui?
Je suis très curieux.
Tu sais pas faire ça?
Non, toi?
Non.
OK. Des enceintes spécialement prévues pour un baladeur MP3.
Mais arrête avec ton baladeur. C'est quoi ce mot-là, le baladeur?
Je sais pas, mais j'ai pris ça sur un truc français.
Je suis jamais baladé.
Non, pour ça, c'est un truc français.
Ouais, hein? C'est ça. Alors ça, là. À chaque fois qu'il y a un mot qui sort du... Ah, oh, mais ça doit être en France qu'on
ça
dit
ça. Ça doit être en France.
Ouais.
Non, en France, c'est plutôt fort sur les mots anglais.
Oh, ouais, on partira pas le débat
non,
là-dessus.
C'était juste pour te taquiner. Donc, qu'est-ce qui sont les enceintes spécialement prévues pour les lecteurs MP3? Donc, des colonnes, des docks ou des satellites? Moi, ça me dit rien.
Des écouteurs.
Ouais, toujours arrêté ça, des écouteurs, mais c'est des docks.
Des docks?
Mais ça me dit rien du tout.
C'est écrit comment?
D-O-C-K. Doc. Un doc. Tu sais, comme un...
Ah, ouais.
Je sais pas. Un dock ici, c'est comme ce que les vannes circulent pour
décharger. Oui.
Un dock, peut-être un genre de socle pour mettre le lecteur.
Ah oui, peut-être. Ouais.
C'est
pour un baladeur.
Ouais, pour un baladeur. Alors, la dernière question. Un baladeur qui lit les formats MP4 est capable de lire A, des vidéos, B, des musiques davantage compressées, ou C, des musiques de meilleure qualité.
Des vidéos.
Des vidéos, mais comme tu allais ajouter tantôt, c'est aussi...
Ouais, c'est, ben, c'est
ça peut être
par
aussi
défaut
la musique,
musique de bonne qualité, mais personne ne compresse en MP4 parce que ça sert à rien. Là.
Non, mais il y a Apple qui est un peu sur l'MP4. Si tu veux mettre.
Ah bon?
Il me semble que si tu veux mettre la musique. Ah non, il y en a
Non, non, c'est UIFF. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée l'autre jour, puis j'ai répondu publiquement. Là.
Ah ouais?
Quand les gens.
Est-ce qu'on peut avoir la question avant?
Non, tu vas savoir la réponse, tu vas connaître les questions avec la réponse.
Ok, comme ça.
La question, c'est. Il faudrait faire un Jeopardy. Ça va être ça le jeu de janvier. Je vais faire un Jeopardy.
Okay, c'est bon, faut le noter. Là.
Ouais, non, c'est ça. On me demandait comment je fais pour récupérer mes musiques de iTunes sur une clé USB, par exemple.
Ouais.
Parce que souvent, tu vas dans ton auto, puis tu sais, maintenant, les lecteurs audio d'auto sont capables de lire les fichiers audio MP3 directement à partir d'une clé USB.
Ouais, exactement.
Sauf que les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, bah, je vais mettre mes musiques de mon dossier iTunes, là, ils vont les mettre sur ma clé USB. Sauf que ça reste c'est des formats AIFF. Quand vous importez des fichiers musique dans iTunes, c'est du format AIFF.
Ah, ok.
Donc, ce qu'il faut, c'est exporter en MP3 les musiques directement depuis iTunes. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que tu es dans ta liste d'iTunes, tu fais clic droit sur la musique, sur la chanson, et tu fais exporter vers le MP3. Et ça te sort tout en MP3. Parce que dans le lecteur iTunes, tu peux convertir tes AIFF en MP3.
Ah, et voilà.
Et voilà.
Alors, c'était une question d'un auditeur fantôme.
Non, c'est une question de quelqu'un que je connais, et qui me disait justement, il comprenait pas pourquoi, quand il mettait ses chansons directement depuis son dossier iTunes sur une clé USB, ça lisait pas
dans le fond, ce qu'il prenait, c'était le AIFF.
Ce qu'il y a dans les dossiers de base, quand tu fais une importation de musique, il transforme automatiquement en AIFF.
Ah, ok.
Donc, c'est pour ça que tu peux pas le lire ailleurs. C'est toujours dans l'idée d'Apple de conserver ses formats de fichiers, sauf que tu peux quand même exporter un MP3 tes propres chansons. Sauf que c'est chiant parce qu'il faut y aller quasiment un par un.
Non, c'est ça. Voilà pourquoi il est mieux d'avoir d'autres solutions pour la musique.
Exactement.
Donc, si tu achètes des MP3 sur iTunes...
Non, bah, alors, par contre, si tu les achètes en MP3, ils sont déjà MP3. Okay. Mais tu sais, quand par exemple, quand tu prenais de la musique, tu la mettais directement dans ta bibliothèque iTunes.
Ah, ok.
C'est ça que ça faisait.
De ton
ça,
CD,
ça switch. Oui, ça switchait en AIFF.
Ok, par défaut.
Oui, exactement.
Tandis que tu peux choisir aussi.
Oui, directement MP3. Bah, là, tu les as en MP3.
Comme le lecteur Windows Media avant, c'était WMA, tandis que maintenant, c'est ça. MP3.
Exactement.
Ah, ben on s'instruit ce soir. Donc, ben merci d'avoir été à l'écoute de cette... je pense que c'était notre 19e émission.
Oh!
Quelque chose de genre, il me semble qu'on ferme, l'année.
19? Avec,
ou 16, quelque chose de genre. En tout cas, il faudrait que j'y compte.
Ouais.
À un moment donné, on va se ramener un gâteau là, avec des chandelles. Et... non, alors oui, merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on aura une petite dernière émission. On va être les trois là, moi, Louis-Seb, Jean-François et Caro. Dit comme ça, c'est comme je suis nommé quatre personnes. Hein.
Ouais.
Moi, Louis-Seb. Et puis, on va avoir un invité spécial. Effectivement, on a usé de nos contacts jusqu'au Pôle Nord. Et puis, le Père Noël va nous rendre visite.
Eh oui.
La semaine prochaine. C'est supposé d'être en studio, là, mais sinon, ça va être au téléphone avec le OOFone. Je sais pas si elle existe. Mais oui, on aura le Père Noël en entrevue, donc j'ai bien hâte de voir ça. On va s'amuser, c'est sûr. Donc, vous étiez à l'écoute de l'émission des Technopreneurs. Louis-Seb et JF qui vous disent une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Je vous laisse avec un extrait, ben pas un extrait, mais un extrait du nouvel album de Metallica, la chanson Atlas Rise. Donc, bye-bye, bonne fin de soirée.
Bye-bye.